service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour ce service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de Hongrie qui se déroule sur ce magnifique, et ce n'est pas ironique, circuit qui est le Hungaroring. Cette semaine, le service après-vente aura forcément une saveur un peu spéciale et nous le dédions tout de suite au jeune Henri Surtees qui nous a quitté après un accident tragique en F2. Nous dédions également cette émission à Felipe Massa qui se remet encore de son terrible accident, mais heureusement les nouvelles sont bonnes, sur lequel nous ne manquerons pas de revenir et lui envoyons toutes nos pensées positives pour l'aider dans son rétablissement. Mais bien évidemment, comme l'aurait dit Freddie Mercury lui-même, nous reviendrons aussi sur l'actualité de la F1 de ces dernières semaines et sur ce Grand Prix, mais aussi sur l'actualité de la F1 de ces dernières heures, puisqu'il faut bien, avec qui c'est qui donc qui revient ?
Kimi ?
Ah, qui c'est qui revient ?
Mika Häkkinen !
Non, qui c'est qui revient ?
Zach Villeneuve ?
Mais arrêtez, là, qui c'est qui revient ?
Kiki Rosberg ?
Oh, oh bon, vous saurez plus tard qui c'est qui revient. Donc vous aurez le droit à tout ça. Tout cela se fera donc bien évidemment comme d'habitude avec la bonne humeur et parfois de la mauvaise foi. Mais n'oublions pas que rien ne serait possible sans nos deux intervenants de charme. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Forza Sumi.
Forza. Bon, alors oui, grosse actualité cette semaine.
Oui, c'est peu de le dire.
On va peut-être même plus parler de l'extra-course que de la course elle-même.
Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on décale l'enregistrement de cette émission, il se passe un gros truc.
Ah, le gros coup de bol, ah, quand même.
Mais c'est pas le gros coup de bol, là. C'est parce qu'on l'a déjà fait trois fois l'émission et là on est obligé d'en faire une quatrième version.
Donc, à émission exceptionnelle par son contenu, on va quand même commencer en beauté par un truc traditionnel que tout le monde attend.
Ah.
Et c'est le chiffre inutile de Shinji.
Quel est-il donc le chiffre ?
Le chiffre du jour, le chiffre de la semaine et le chiffre 26.
Et le vous savez... prix est...
Non mais ce qui est drôle c'est que vous savez en général quand je donne le chiffre je dis ce qu'il n'est pas. Et en fait là cette semaine j'avais prévu de dire ce qu'il était, c'est-à-dire que 26 ça devait être le nombre de voitures sur la grille l'an prochain et pas de bol.
Il y en aura peut-être 26 hein.
Ah peut-être, on verra.
Peut-être même plus.
Non plus non.
Ah non, non,
ah bah
plus
oui.
Non.
Ah non.
Ah, attention, il
ah n'y a pas de place.
C'est limité à 13 équipes mais il peut y avoir plus de voitures. Puisque la FOTA a proposé de mettre 3 voitures par équipe. Ça ferait 3 fois 13.
39 voitures.
39 voitures.
Ouais.
C'est le truc de dingue.
Ça faut appeler Ralph, hein. Il y aura peut-être une place pour lui.
Oh non, non, non. Hein. Oh non, non. On prend l'aîné, mais on prend pas le cadet. Hein. Donc, alors effectivement, c'est le nombre de voitures théoriquement l'année prochaine. Mais c'est quoi d'autre, Shinji ?
C'est le nombre de semaines pendant lesquelles j'ai pas fait de dessin.
Oh non, ça s'est dépassé
depuis longtemps. Ce chiffre concerne un objet.
Un objet ?
26.
26.
Ouais. En fait, c'est le sous-ensemble d'un objet plus gros.
C'est le nombre de pièces qui composent une suspension arrière d'une Brown. Ah, pardon, non, c'est 25 maintenant.
Eh bien, non. 26, c'est le nombre de cubes contenus dans un Rubik's Cube.
Bah, non.
Il n'y a pas de cube central.
Attends, bouge pas, je compte.
Enfin, de cube, je vais dire de carré.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Ben non, pas 32.
Je vais me gourer.
Ben pas 32.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18.
Ah ça va rester en intégrale.
Tu m'aurais dit 27, j'aurais compris.
24,
mais...
24.
Mais non.
Non, il y en a 26.
Mais non, il y en a
t'as,
pas 26.
T'as les deux tranches extérieures qui ont chacune 9 cubes. Et la tranche voilà. Intérieure, t'as 8 cubes parce que t'as pas le cube central. Donc t'as 8 cubes.
Ah, qui est au milieu, quoi, qui est à l'intérieur.
Donc ça fait.
Ah, j'en ai oublié deux. J'ai oublié les deux centraux. Ah, ok.
J'aime aller les couilles, j'aime aller.
C'est pas grave, on coupera ça.
Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, on coupera, ouais.
Voilà.
Alors, Shinji, quel est le rapport avec la Hongrie ? Parce que, personnellement, là, je vois pas.
Eh bien, le Rubik's Cube a été créé par un Hongrois.
Exactement. Il a été inventé en 1974 par Erno Rubik, un sculpteur et professeur d'architecture hongrois qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Erno obtient en 1975 le brevet hongrois HU170062 pour le Magic Cube. Ça s'appelait pas le Rubik's Cube, alors Lynn, c'est le Magic Cube. Mais ne demande pas de brevet international.
Oh le con.
C'est en 79. Alors, à l'instigation d'un gars qui s'appelle Bernard Farkas et qui doit avoir des belles couilles en or aujourd'hui, un accord est signé avec Ideal Toys pour distribuer le cube mondialement. Ideal Toys renomme donc le cube Rubik's Cube et les premiers exemplaires sont exportés de Hongrie vers mai 1980. Plus de 100 millions de cubes sont vendus entre 1980 et 1982. Et vous savez combien il y a de combinaisons ?
Oh, je sais plus, il y en a 900 milliards, dans le genre.
43 milliards de milliards. En passant en revue 1 milliard de combinaisons différentes par seconde, cela prendrait plus de 1200 ans pour les épuiser toutes.
Et je crois que le record du monde, c'est 12 secondes entre dans le genre, non ?
Moi, j'étais assez alors, fort quand même. Il me fallait 2-3 minutes pour le faire.
Alors, le record absolu...
Tu sais même pas combien il y a de cubes dans un Rubik's Cube.
Alors, mais le... c'est... Non, mais sans rire, moi je le faisais en 2-3 minutes. Je décollais tous les autocollants et je les remarquais.
Ah, la bouilloire de ta mère. Moi c'est, je faisais pareil, je prenais la bouilloire, je mettais le cube et après je recollais.
Mais t'avais pas besoin, c'était des autocollants.
Ouais, mais après ça fait moche, ouais. Tu vois le coin qui est corné et tout.
Ouais, non. Moi, je faisais façon... Tu faisais pas ça bien.
Le record absolu, il est de 7,08 secondes.
C'est
le par.
C'est pas possible.
Détenu par Eric Hackers Disc.
Hein. Eric, si tu nous écoutes, t'as vraiment rien d'autre à foutre.
Le 13 juillet 2008, à l'Open de République Tchèque 2008. Et le record officiel...
À l'Open, donc c'est une rencontre, il y a des Open de Rubik's Cube.
Il y a des Open de Rubik's Cube, ouais.
C'est quand même imperturbable parce que tu continues, on a beau sortir des conneries à côté.
Eh ouais, bah,
il est à fond.
Et le record officiel... C'est 10 secondes 63. En fait, c'est basé sur une moyenne de 3 cubes parmi 5. Donc, ils excluent le plus lent et le plus rapide.
D'accord.
10 secondes.
Mm-hmm. Et le lien avec la F1 ?
Il n'y en a pas. Et depuis quand il y a un lien avec la F1 ?
Ah, pardon, c'est en hongrois, c'est vrai. Bon, on a perdu Lino.
Non, c'est un bon chiffre.
Oui, oui, oui.
on va passer à notre volet actualité des dernières semaines, enfin des deux dernières semaines et des dernières heures.
Alors moi, j'ai une date à vous proposer.
Ah, vas-y.
Il y en a qui proposent des chiffres, moi je peux vous proposer une date. La date
de Denzo.
Non.
La date de ton dernier dessin, le 13 mai 1912.
Le 25 août 1991.
Le 25 août 1991.
Ah. Eh bien, le 25 août 91, à Spa-Francorchamps, Schumi participe à son premier Grand Prix.
Ah,
et 18 ans moins 2 jours, il participera à son... Je sais pas combienième Grand Prix, mais il fait son retour. Ouais. Il commence sa deuxième vie en F1.
Ça va être.
Deuxième carrière.
Mais en même temps, il était quand même super bien sorti. Mmh. C'est quand même dommage qu'il revienne. Il était quand même super bien. Sans doute l'une des plus belles courses de la décennie pour un pilote. Hein. Il a pas gagné. Mais non, mais il était bien sorti. C'est presque triste qu'il revienne. Mais on s'en fout parce qu'il revient. C'est le principal.
Ça sera son 251e engagement.
C'est beau. Et il en a combien ? Barrichello, là ?
Ah, Barrichello, c'est 285, je crois, maintenant.
Ouais, quelque chose comme ça, oui.
Est-ce qu'il peut taper le record de Patrese ?
Oh, bah,
il l'a pas déjà battu ?
C'était 251, Patrese.
Oh, Patrese, non. Patrese, il avait le précédent record.
Oui, et c'était 250 et quelques. Tu me confirmes ?
Patrese 256, Barrichello 278.
Et j'avais 5 près. Et
voilà.
Mais je suis pas
donc
mal.
Schumacher, il a pas dépassé Patrese. J'avais donc raison.
Alors, il pourrait, mais il faudrait qu'il fasse les 7 Grands Prix.
Pas de problème.
Il égalerait. Notez d'ailleurs que Button a 70 points et il reste 7 courses.
Et donc ?
Ça veut donc dire que mathématiquement,
Schumacher
fait son deuxième.
Il peut le faire.
Donc, avant de revenir donc, sur les gros dossiers des dernières heures, on va peut-être...
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout pour l'instant.
Mais on y reviendra plus profondément après.
Ouais, voilà.
Petit retour, on avait déjà abordé le sujet la dernière fois à propos du Grand Prix d'Allemagne. Ça a été officialisé assez lentement, mais ça a été officialisé. Bourdais a été débarqué de chez la Scuderia Toro Rosso.
Ah bon?
Et c'est Remme Alguersuari.
J'ai pas vu la différence pendant le Grand Prix.
Ah, c'est bien, t'as appris à bien le dire.
Même pas d'ailleurs, je dois avoir une photo de son casque qui traîne quelque part, faut que je le... Il faudrait que j'ai celui de Romain Grosjean aussi, je crois que ça va me servir bientôt.
Ouais.
Ah, il a déjà essayé la Renault il y a pas longtemps apparemment, donc...
Avec Piquet qui va partir, ça va être triste, ah hein, bon la F1.
Attends, on va se faire chier.
Bah, on a déjà deux autres cibles.
Eh, mais vous...
Il reste Barrichello qui est là.
Ah, ouais, il y a Barrichello, physique est là, on peut taper sur Hedfeld...
Ah non, pas Hedfeld, non, pas Hedfeld. Il est chômeur, pas Hedfeld.
C'est vrai.
Chômeur.
Ah, bah, mais à la fin de l'année.
vous savez quoi quand même moi, on s'était fait la réflexion, du moins je crois qu'on s'était fait la réflexion. Vous êtes déjà le SAV en 2007 ? Non, peut-être pas. On s'est peut-être juste fait la réflexion avec. Je sais plus. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Quoi.
Non, en 2007, j'ai commencé par le faire seul. D'ailleurs, ça, je crois que ça a bientôt un an le SAV. J'ai commencé par le faire seul.
Alors en 2008.
Et après, je l'ai fait avec Shiji. Et après, on l'a fait avec toi seulement depuis le début de l'année.
Non, mais alors j'ai dû en discuter avec toi, Dino. C'est que quand. Ou avec. Oui, si, je pense que c'est avec toi. Quand.
Non, on s'en fout avec qui t'en as parlé, crash tout le truc.
Assez rapidement, la lutte qu'il y a eu entre Hamilton, Alonso et Piquimi, en fait, on croyait vraiment que Schumi allait nous manquer. Et on s'est aperçu assez rapidement que finalement, il manquait pas tant que ça.
Oh non.
Et pourtant. Aujourd'hui, quand il y a eu cette, et depuis hier, quand on a eu cette annonce de son retour, mais j'ai l'impression que la F1 revit complètement, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est dingue.
Ça fait une impression quand même assez incroyable, quoi. On a l'impression que tout le monde était orphelin de ça et tout le monde, voilà.
C'est un peu le contraste par rapport à cette saison. C'est qu'assez paradoxalement, cette saison où les champions ne brillent pas, eh ben on a d'abord la victoire de Lewis en Hongrie qui redonne un peu de peps et qui parce que mine de rien je reste quand même convaincu qu'au fond d'eux les fans préfèrent voir les McLaren et les Ferrari se batailler plutôt que de voir cette espèce de bataille à distance entre les Red Bull et les Brawn parce qu'elles se sont jamais vraiment affrontées directement. Les gens, d'abord il y a la victoire de Lewis, il y a le podium de Raikkonen et puis là il y a le retour de Mikael, donc tout le monde
c'est du rêve.
C'est le retour des grands noms, quoi.
Ouais, complètement, complètement.
C'est un peu le retour du rêve. Voilà.
Et moi, j'avoue, hein, ça me sauve ma saison. C'est cruel ce que je vais dire. J'ai une profonde pensée pour Massa. Mais indirectement, je suis pas mécontent que Massa soit sorti. Et je suis très heureux qu'il s'en sorte très bien. Mais oui, voilà, ça fait revenir Michael.
Je vais même vous dire quelque chose. Ça va sans doute permettre également à Kimi de se sortir les doigts du cul.
Ah oui, parce que là...
T'imagines les confrontations qu'il va y avoir. Il va y avoir sur du même matos Kimi contre Schumacher, sur du matos à peu près équivalent à la voiture Kers Lewis contre Schumacher.
Vettel contre Schumacher.
Vettel à voiture qui peuvent se chamailler ensemble. Vettel et Schumacher.
On peut multiplier ça à l'infini.
Alonso.
Et puis bon, Button. Alonso va être un peu emmerdé parce qu'il va se dire bah c'est bon, moi je le connais, c'est bon, on a déjà roulé ensemble. Et puis...
Je l'ai déjà battu deux fois.
Ouais, voilà. C'est vrai. Il est blasé, lui.
Ce qui est très drôle, c'est que quasiment peut-être une heure ou deux heures avant, Willy Weber, Monsieur 20%, disait non, il reviendra pas.
Il a même déclaré après que lui, il estimait que Schumacher faisait une erreur.
Ouais. C'est vrai.
Mais sur le retour de Mikael, il y a pas mal de détails parce que on sait que apparemment chez Ferrari, ils traînaient un peu des pieds pour renouveler le contrat de Mikael. Parce qu'ils voulaient tourner la page.
Ils lui ont trouvé une belle petite et hein.
à Paul Schumacher. Et apparemment, ça aurait été, comment dire, pour Michael, il aurait dit, voilà, moi, vous, l'enjeu pour Michael et Willy Weber, ça aurait été, vous nous re-signez Michael et il vient rouler. Bon, Michael lui dit, c'est par loyauté. Et puis, honnêtement, je pense que même s'il n'avait pas signé, je pense que Michael, il serait revenu.
Ouais.
Il va quand même toucher 3,5 millions.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout ça pour la modique somme de...
C'est plus en chiffres. C'est plus que ce qu'il gagnait...
Il gagnait 4,5 millions de dollars de sa dernière année, quoi.
Et là, avec la conversion euro-dollar, il va gagner 5 millions de dollars par course.
Waouh.
Mais bon, entre-temps, il y a quand même des fluctuations monétaires qui ont été assez importantes.
Ouais.
Mais ça donne quand même une idée du fait que Schumacher, malgré presque 3 ans d'absence, reste un pilote ultra bankable, quoi.
Ah oui. Donc, il faut préciser que c'est pas que pour Valence. Il sera là jusqu'au retour de Massa.
Voilà.
Donc ça sera Valence.
Ça se trouve, il sera pas là à Valence.
Donc, ça sera... Non, parce que non, quand même.
Massa a quand même dit, il a quand même, comme quoi, alors je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si on lui fait dire, mais il a eu deux phrases. D'abord, concernant Lewis, qui avait gagné, il disait, ouais, mais cette course-là, c'était la mienne.
Ça, c'est facile.
Et puis, concernant Schumacher, il a dit, c'est pas sûr que je la lui laisse. Hein.
Mais bon, les médecins disent quand même, voilà, vous comptez quand même 2 mois, quoi.
C'est bien, voilà, c'est un choc à la tête.
Voilà.
Moi, j'en voyais juste derrière. C'est vrai que c'est notamment ce qui avait motivé le fait que j'appelle un neurochirurgien pour avoir des détails.
Ah,
techniques.
Mais il y en avait certains, ils disaient que quasiment vraiment, à Valence.
Voilà, à Valence, il allait revenir. Mais non, mais pas après une opération à la tête, quoi. C'est impossible.
Donc, Schumi sera là à Valence. Il sera là à Spa, qui est une semaine plus tard. Il sera sans doute là aussi à Monza.
Pour moi, le minimum, c'est Massa reviendra. S'il revient, ce sera au Brésil.
Ah. Alors, maintenant, question, quelles sont ses chances réelles?
Ah. Alors, je sais qu'Enzo, lui, il croit que Schumacher...
Ah bah, moi, je vais vous le dire comme ça. Hein. Ouais. Je vais vous le dire comme ça. Il y a Valence, après il y a Spa, après c'est Monza, c'est ça?
Voilà.
Ouais.
Dans ces trois courses, il en aura gagné une, c'est sûr.
C'est pas...
Moi, je pense que Valence, ça ressemble beaucoup à la Hongrie, donc les Ferrari seront pas mal. Donc,
ouais.
Je pense que Schumi, tu mets dans n'importe quelle voiture, il a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale. Il a déjà conduit avec les slicks. Il a bien, même s'il n'a jamais conduit la voiture 2009, fin 2008, il l'a préparée quand même. Il a fait des essais aérodynamiques et les essais des slicks, il les a quand même fait pour Ferrari en vue de la saison 2009. Donc, il connaît quand même ça. Je pense qu'il aura pas de problème d'adaptation à la voiture. Et puis, même s'il gagne pas à Valence, Spa, c'est chez lui, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et Monza aussi.
C'est vrai, mais t'imagines Spa, le Ferrari est ultra favorite. Parce qu'ils ont, le plus gros vainqueur actuel et le nouveau maître de Spa qui
Raikkonen. Oui, c'est vrai.
Et ils ont le vrai maître de Spa qui est Schumacher.
Puis même après, peut-être qu'après, Massa revient, mais s'il revient pas tout Singapour, elle encore, il risque de s'éclater, quoi.
Personnellement, sur Massa, étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu pour Ferrari cette année.
C'est vrai.
Leur seul enjeu aujourd'hui, c'est de faire mieux que McLaren et Renault. Donc, de gagner une course et d'essayer de gagner la troisième place, ou même à la limite de se contenter de la quatrième, ça serait pas trop grave. Mais devant McLaren et Renault, au moins, de maintenir la tête des anciens leaders de la hiérarchie, de rester le meilleur. Donc eux, ils n'ont pas d'enjeu. Donc quel serait l'intérêt de Massa de revenir et prendre le risque de reprendre un coup ou de même un petit accident peut lui refaire mal. Autant qu'il revienne en 2010.
Avec les essais et tout, reprendre tranquillement.
Voilà.
Oui, qu'il attend 2012-2013, quoi.
Non, mais c'est bien de pouvoir en rire aujourd'hui, en tout cas.
Oui, voilà.
Donc, avec Michael, ça va nous faire combien de champions du monde, tout ça?
Dans l'état actuel des choses, ça ferait 9. C'est-à-dire 7
titres.
9 titres. 7 titres pour Schumacher, 1 pour Hamilton et 1 pour Raikkonen.
Ils ont l'air de 2 minutes à côté.
Et alors, soit à Spa, soit à Valence, s'ils ne sont plus suspendus, ça ferait 11 avec les 2 d'Alonso. Et donc 11 titres pour 4 pilotes.
Et on pourrait même avoir mieux, parce qu'il se murmure que Alguer Suari n'aurait que 3 courses pour faire ses preuves.
Et après,
donc
Villeneuve.
Peut-être qu'à Monza, ils vont nous faire débarquer Villeneuve, et ça fait 5 champions record du monde. On s'est un petit peu renseigné là avant d'enregistrer sur les. Parce que ça nous ferait donc potentiellement 4 champions du monde.
Mmh. On peut faire mieux. Parce que si tu joues avec le patronyme, tu as également un Piquet et tu as également un Rosberg.
Un Rosberg.
Donc Piquet t'en rajoute 3, parce que pas le fils, il les aura jamais déjà. Hein. Ouais. Mais.
Ah, t'es pessimiste d'un coup sur Rosberg.
Non, j'ai dit Piquet.
Ah d'accord, ah ouais, je pensais que c'était Rosberg.
Ah non, Rosberg, je lui en souhaite plein, quoi.
Oui.
Au moins un, quoi.
Qu'il ait pas l'air con. Bon, déjà une victoire, ça sera mieux par rapport à Piquet.
Oui, mais ça sera ça. L'an prochain, quand il sera chez McLaren.
Voilà.
Faut qu'on parle de transfert aussi. On parle dans tous les sens, là. Il manque quelqu'un qui coordonne tout ça.
Ah, salaud! Mais moi, j'essaye de vous guider sur des trucs. Je sais qu'on a envie de parler de Schumacher. C'est, voilà.
Ralf?
Non, Michael. Tu sais très bien, quand on dit Schumacher, on dit Michael. Ouais, parce que bon, faut dire ce qu'il y a, faut être honnête, quoi. Sur les 3 personnes qui animent cette émission, il y en a 2. Sûr. Il y en a 2 qui ont vécu, qui ont dormi, qui ont fantasmé Schumacher, quoi. Seulement les week-ends de course, attention. Hein, en semaine.
Si tu savais comme je pouvais pas le saquer quand il a été buté.
Ah ouais, c'est ce qui me fait peur. Et quand je vois comment tu pouvais pas saquer un certain Lewis et que maintenant tu es super content qu'il ait gagné,
je commence à me faire. Non, j'ai cru que tu allais me parler d'Alonso.
Ah non, mais Alonso, on en parle tout le temps. Pour le choix, on va pas en parler. Ça fait du bien.
Ouais.
Ah, ça, c'est le truc.
On en a parlé quand même chez Ferrari.
Oui, on en a parlé, mais en ce moment, c'est limite.
Valence.
Que Alonso soit à Valence ou pas, tout le monde s'en branle.
Ça
va revenir dans les prochains jours quand il y aura l'appel, etc. Mais là, pour le moment, ouais. À chaud, avec les 2 grosses nouvelles qu'on a eues.
Ça sera le 17 août.
Ouais.
L'appel
ouais. Ouais. Et alors, le truc, c'est que comme c'est le 17 août, donc c'est quelques jours seulement avant le Grand Prix, puisque le Grand Prix commence le 20, je crois. Donc, il est fort probable que les camions Renault soient déjà partis pour Valence. Auquel cas, la FIA, qui sauverait l'honneur et qui arrangerait un peu les affaires de tout le monde, déporterait la pénalité à Spa.
À Spa.
Là, effectivement, ça arrangerait un peu plus les affaires de tout le monde.
Vu qu'à Spa, il y aura tous les Allemands, de toute manière, qui auront acheté toutes les places pour voir Schumi.
Voilà. Tout le monde s'en foutra de Renault, tout le monde s'en foutra de McLaren, quoi que ce soit. Donc, pour on va reprendre sur quoi.
A-t-on autre chose à dire sur Schumacher?
Ah oui, encore.
Non, mais bon, moi j'ai donné mon idée comme quoi il pouvait gagner. Vous m'avez pas.
Ah oui, je suis d'accord avec toi.
Vous partagez ça?
Bah, moi, c'est ce que je disais. Moi,
je pense qu'il en est tout à fait capable.
Il en est capable, oui. Est-ce qu'il a. Alors, déjà, c'est le truc. Est-ce qu'il a le niveau de la Formule 1? Oui.
Oui.
Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un...
Il sera soit à son grand niveau, soit il sera plus bas que son niveau, mais plus bas que son niveau, ça restera.
Son seul problème aujourd'hui, c'est le poids.
Peut-être, ouais.
Parce que c'est vrai qu'après quelques années d'inactivité...
Mais attends, il s'entretient bien aussi.
Quand je dis le poids, c'est par rapport au Kers. On se rappelle qu'avant la saison, tous les pilotes qui avaient le Kers ont perdu 2-3 kilos chacun pour alléger la voiture. Donc là, ça va être le problème pour Schumacher. Ça va être, en gros, grosso modo, son handicap. Mais en tout cas, pour Ferrari, c'est une bonne opération parce qu'ils gagnent quand même un excellent metteur au point. Et pour la saison 2010, parce qu'ils vont commencer déjà à préparer la saison 2010... Bah, ne serait-ce que s'ils arrivent à mettre Schumacher dans la position de finir les courses, etc., de faire le maximum d'essais, bah, lui va rapporter plein d'informations techniques sur la voiture. Et je pense que la voiture va beaucoup progresser d'ici la fin de saison. Et que l'année prochaine, ils vont tirer tout le bénéfice de la piste de Schumacher. Et je ne voyais pas d'autres personnes. On a parlé de Bourdais, on a parlé de plein de mecs. Je ne voyais personne d'autre.
Sincèrement, le meilleur choix à part Schumi, ça aurait sans doute été Bourdais.
C'est un peu le problème en plus. C'est l'un des gros défauts. On a déjà eu ce week-end avec l'absence de Massa. Massa ne pouvait pas être remplacé parce qu'il n'y avait aucun pilote qui n'avait déjà fait au moins un tour lors des essais. C'est le coup de supprimer, ne serait-ce que le coup des troisièmes pilotes d'essai. Aujourd'hui, en dehors des pilotes qui sont déjà en Formule 1, il n'y a aucun pilote qui a le niveau F1 pour pouvoir venir dans une grande équipe, pallier une absence ou un truc dans le genre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui.
Non, mais là, il y avait une question réglementaire. Non, mais il y avait une question réglementaire aussi.
Oui,
là.
Non, mais là, il y avait une question réglementaire. Mais par exemple, là, t'avais Wurtz qui était sur le, dans le pad.
Ouais.
On a pu piloter. Mais justement, le fait qu'on ait retiré l'idée qui était super excellente de faire rouler d'autoriser le troisième pilote de l'équipe à rouler le vendredi.
Surtout que cette année, ça aurait eu du sens.
Voilà,
quoi.
Cette année, vu qu'on a supprimé les essais, ça aurait continué à entraîner une génération de pilotes essayeurs. On se rappellera quand même que la plupart
Vettel, Kubica.
Vettel, Kubica, Alonso, ils ont tous commencé en étant essayeurs. Et c'est en étant essayeurs, en faisant des temps aux essais qui sont montés en course. Et là, c'est le constat, quoi. C'est qu'aujourd'hui, bah, quand Ferrari a un pépin, le seul pilote qu'elle peut appeler, c'est Schumacher.
Juste pour vous faire partager quand même un texto que j'ai reçu hier soir d'un de mes potes fan de Kaiser. Il m'écrit, la Ferrari a déjà gagné 8 dixièmes au tour. Raikou a déclaré qu'il avait vidé une pharmacie de Mistosil car il pensait avoir le cul rouge. Julien, si tu nous entends...
Vous pensez vraiment que Schumacher va mettre la claque à la Raikkonen?
Ouais.
Ouais.
C'est possible. Ah ouais.
Ça ne fait aucun doute.
Vous voyez pas Raikkonen avoir une réaction d'orgueil et parce que maintenant c'est.
Et c'est assez.
Il a plus d'orgueil.
Je sais pas.
En même temps, c'est vrai que c'est un gros problème, c'est que malheureusement, c'est celui qui s'est fait, qui a été blessé, c'est Massa, qui on le sait est le chouchou de l'équipe. Et il est remplacé par.
Ah, mais dans tout ça, c'est Raikkonen qui a le plus à perdre. Hein.
Schumacher qui est le super chouchou de l'équipe, quoi.
Mais il a rien.
Que
veux-tu qu'il perde? Il a plus rien.
Schumacher, il a rien à perdre. Même s'il fait moins bien que Raikkonen, c'est pas là. On dira, bah voilà, il revient après 2 ans, la voiture est moins bien et tout ça.
Moi, je vois sur.
Il a rien à perdre.
C'est sur le site d'Enzo, il y avait un. Je crois que c'est. Je sais plus. Qui demandait. Qui nous demandait est-ce que Schumacher va réussir son retour. Mais il n'a pas besoin de réussir son retour.
Les gens nous demandent notre avis comme
ouais,
si on était du Jean-Louis Moncet.
Je me suis senti comme Jean-Louis Moncet, ça m'a vachement honoré. Mais Schumacher, il n'a pas réussi son retour. Il n'y a aucun objectif pour lui, il arrive en plein milieu de saison, il est juste là pour quelques grands prix pour remplacer Massa.
Comme tu as dit, Ferrari va pas jouer le titre. Donc,
voilà, lui, à la limite, c'est peut-être là où justement il va être le plus dangereux, c'est qu'il a aucune obligation envers Ferrari, à part ramener des points.
Ce qui est quand même fabuleux, c'est que celui qui généralement nous fait des coups comme ça, à nous dire « ouais, ça serait bien que tel pilote vienne » et tout ça, bah c'est Bernie.
Ouais.
Et là,
ouais.
il s'est fait griller la politesse par Ferrari qui était plus rapide que lui. Il a pas eu le temps d'en placer une et...
Bah Bernie... Le seul qui a eu du nez, c'est Niki Lauda.
Non, Bernie et Niki Lauda, ils en ont parlé juste avant. Hein. Bernie avait dit, ouais, c'est bien pour la F1 et tout, et Lauda lui avait ramené de l'eau à son moulin. Le truc, c'est que Bernie n'y a pas pensé suffisamment tôt. Moi, j'étais même étonné que Bernie nous dise pas que la potentielle fin de carrière de Massa, c'était bien pour la F1. C'est quand même généralement genre de conneries. Hein. Une affaire d'espionnage, c'est bien pour la F1. Hitler qui est efficace, c'est bien pour la F1.
Oui, oui,
là, Massa qui est dans le coma, pour lui, je suis sûr que c'était bien pour la F1. C'est étonnant d'ailleurs de sa part. Je trouve qu'il a été vachement sur la réserve, notre Bernie. Il doit être malade. Ah,
c'est-à-dire que là, quand même...
Il va être au courant que BMW se cassait.
Ah merde.
Dit, merde, qu'est-ce que
je lance un scoop comme ça, on n'était pas au courant. Là.
Donc, pour Mickaël, c'est fini.
Ouais.
On va continuer à faire des petites allusions, je pense, pendant cette.
Ouais, je ne m'interdirai pas une petite allusion.
Je pense d'ailleurs que je pense même qu'on peut finir l'émission sur ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, on va passer un peu à la suite de l'actualité. On va garder le dossier BMW et Renault pour la fin.
Ah bon, Renault aussi?
Oui, voilà. Ouais. Enfin, là, je vous balance des exclus, là, mais un truc de dingue. On va juste revenir vite fait sur les transferts, tu en parlais tout à l'heure.
Ouais.
Donc, entre les deux Grands Prix, on a Marc Weber qui a été confirmé pour la saison 2010 chez Red Bull.
Attends, on a une info moncée. On avait une info moncée.
Laquelle?
Kubica qui signe chez BM.
Ah non, mais c'est... Non, mais, non, attends, non, mais sérieusement, c'est pas une info moncée. Kubica, il a re-signé chez BM.
Oui,
il a re-signé chez BM ce vendredi ou samedi dernier. C'est le truc d'ailleurs très drôle avec le retrait de BMW. Donc on avait Mark Webber qui était confirmé, Red Bull qui devenait donc la première équipe à rester inchangée pour la saison 2010.
Ouais.
À moins d'un départ surprise de Vettel, mais personnellement moi j'y crois pas. Parce
que, pas le lâcher. Ouais,
et je vois mal comment Red Bull va lâcher son champion du monde. T'as vu comment j'ai retourné ma veste?
Ah, tu crois aussi, toi, maintenant?
Ah, bah, maintenant, c'est mon nouveau chouchou, donc, maintenant, j'y crois, hein, puisque je vois que les Brown partent un petit peu n'importe comment, partent en morceaux,
Oh!
Désolé. Hein. On a failli avoir une information sur la future équipe américaine, USF1.
Ah ouais?
Puisque on a quasiment été au bord de la signature de Villeneuve.
Ouais, mais alors ça...
Et en fait, apparemment, c'est...
Il y a aussi eu des infos très contradictoires.
Voilà, c'est Villeneuve, il a dit non, mais...
J'ai pas parlé à ce magazine. La seule fois qu'on s'est vu avec Windsor, on s'est dit bonjour.
Voilà.
Voilà.
Bonjour.
Eh bien, je peux vous dire que je l'ai pas croisé en Suisse, donc je peux rien vous dire.
Ah, voilà. Ah. Et tu aurais pas fait nulle part par... Ah, faut que tu nous racontes ton histoire, Enzo, maintenant. Figurez-vous, chers auditeurs, que c'est où?
À Villars, sur... je sais pas quoi, Villars.
À Villars, hein. Il y a un golf.
En Suisse.
Et que c'est là que... En Suisse, que c'est là que... Comment s'appelle...
C'était le collège où était Jacques Villeneuve et où il a rencontré Craig Pollock.
Voilà. Et il y a un trou.
Dans sa jeunesse, qui était professeur de sport là-bas.
Et il y a un trou. Jacques Villeneuve.
Et sur le golf, il y a un trou. Jacques Villeneuve et Craig Pollock. Trou voilà. Numéro 10.
Villeneuve a un trou.
Parfois.
Ça en fait deux.
C'est nul ça.
Ah, désolé, il fallait que je l'attente. Donc oui, l'hypothèse Villeneuve chez USF1, est-ce que vous croyez au retour de Villeneuve l'année prochaine?
À fond.
Ah bon, toi tu
non.
Y crois? Ah, c'est intéressant ça. Donc non, bon vas-y, explique-nous pourquoi non.
Parce que lui n'est pas Schumacher et que voilà, revenir après 3 ans, je suis pas sûr que lui ça marchera.
Ok.
Ah non, mais attends, que ça marche, c'est un truc, mais qu'il essaye.
Ah non, mais il veut, c'est ce que j'ai déjà dit, lui il veut. Ça
non,
veut
mais.
C'est dire que les équipes veulent.
Et ben moi je pense qu'il y a des écuries, genre des Américains qui connaissent rien à la F1. Qui peuvent croire que ça peut être un bon plan.
Alors le truc c'est que les Américains, ils ont déjà donné une liste de noms. Alors il y en a 3 noms, il y a je sais plus lesquels. Il y a Alexander Rossi, il y a Summerton et puis je sais plus quoi. Bah, vous trouverez ça sur la page saison 2010 du site.
Tout ce qu'on doit trouver là-bas.
Ouais.
Mais bon, alors, ses carrières, avec Gersuari à côté, c'est un mec avec un gros palmarès, quoi.
Ah ouais.
Ils ont fait de la formule BMW aux États-Unis, un peu dans des pays d'Europe, mais ils sont pas très connus. Et ce que veut faire USF1, c'est prendre un de ces 3 pilotes, moi mon favori c'est Rossi, et juste pour le nom, et mettre à côté un autre pilote d'expérience. Il y a aussi l'hypothèse Barrichello. Et apparemment, Windsor, lui, aurait opté pour un autre mec vraiment très américain qui est allé en Thunderbolt.
Tu veux dire celui qui a arrêté la F1 parce qu'il disait plus capable.
Voilà.
Ouais.
Et qui est
son propre chef, quoi.
Qui automatiquement derrière a signé un contrat avec Honda, je crois. Parce qu'il était plus capable, mais il pouvait faire des essais.
Celui avec qui il faut toujours agrandir les voitures.
Voilà. Et c'est d'ailleurs celui qui avait posé candidature pour intégrer le championnat de Formule 1 avec une équipe néerlandaise, je sais plus le nom.
Donc potentiellement, si on élimine, si on élimine toutes ces nouvelles écuries dont on connaît pas trop le potentiel et
ouais.
Qui visiblement ne vont pas prendre dans les grosses écuries, si on perd 4 volants, ça va quand même faire des dégâts.
Ah oui. Ah oui.
Bon, alors un Piquet. Piquet, il va être remplacé par Grosjean, puis méconnaissant. Bah non, si on part du postulat que Renault n'est plus là.
C'est ça le truc, c'est que par
voilà, tu vois.
Pour Grosjean, ça sent le roussi parce que si Grosjean il n'est pas performant en remplaçant Piquet, Renault, avec même en gardant Alonso, si Renault reste, ils vont tout de suite aller chercher Kubica.
Tout à fait.
Ouais.
Mais après, bon, mais il y a Barrichello qui risque de pas rester, on va dire, chez. On va avoir une place qui va se libérer. Chez Williams, il y aura sans doute une place qui va se libérer avec Rosberg qui va se casser. Mais il faudra recaser Aiki aussi. Ça va faire quand même du monde à recaser. Bon, Niki Appel, on peut dire qu'il est fini aussi, donc on ne devrait pas le revoir l'an prochain.
Ouais. Cette année, à la fois, il y a du mouvement et il y a vraiment beaucoup d'incertitudes.
Et si Michael, en fait, il s'apercevait putain que ça lui manque trop et que ce soit Prost ou Mansell, ils ont été champions du monde à 40 ans.
Oui, il va chez Brown.
Mais non, Brown, ils sont déjà morts là.
Non, je pense que honnêtement, je pense que Michael, il a tourné la page. Et...
Revenons quand même à fin 2006. Soyons totalement honnêtes, il a été un peu poussé par la porte. À la Todd voulait le garder, mais lui, c'était pas son idée de partir à la retraite. Il aurait voulu rester avec Massa, et c'est vraiment pour pas, et parce qu'il s'entendait très très bien avec Massa, et c'est vraiment pour pas sacrifier Massa qu'il a dit bon allez, je laisse ma place quoi. Et ça le faisait un peu suer que Montezemolo lui avait fait ce coup-là avec Raikkonen quoi. Mais sincèrement, je pense qu'il était pas forcément prêt à partir. Je pense que ça peut, il peut avoir un déclic, hein. Il peut se dire merde alors. J'ai perdu 3 ans. Je pourrais être à 10.
Non, mais moi, personnellement, je pense vraiment que là, il a envie de faire de la moto. Il a envie de faire d'autres choses. Je pense qu'il est content de sa vie actuellement. Donc, je l'ai eu hier au téléphone et. Non, je déconne. Bon, alors, les deux gros dossiers d'actu des derniers jours. On va commencer par Renault.
On peut quand même dire un mot sur l'accident de Massa, quoi.
Mais je vais y revenir. Alors, tu te plaignais tout à l'heure qu'il y avait personne qui dirigeait l'émission. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc Renault qui ne participera pas donc au théoriquement au Grand Prix de Valence. Ouais. On en a déjà parlé tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec la décision? Pas d'accord? Vous trouvez ça sévère? Pas sévère?
Je comprends pourquoi ils l'ont donné, mais je trouve ça quand même un peu exagéré.
Bah surtout par rapport à des
précédents. Voilà, il y a eu des précédents et il n'y avait jamais eu ça. Quoi.
Ça aurait été 15 jours avant s'ils n'auraient rien eu, voilà.
Mais voilà, c'est ce que je veux dire dans le. Je comprends pourquoi il le fait. Voilà, comme tu dis, 15 jours plus tôt, il n'y aurait pas eu ça.
Mais c'est vrai qu'en même temps, moi je me rappelle de plusieurs incidents comme ça sur la Renault d'Alonso.
Ah oui, les coups de roue, ouais.
C'est pas la première fois chez Renault qu'ils font ce genre de boulette et qu'ils laissent le pilote repartir. Je pense qu'à un moment donné,
Mansell a aussi eu, du moins Mansell et Williams, ont déjà eu ce problème récurrent également. Hein. C'est un peu toutes les écuries qui ont tenu
ça. Ça fait quand même, chez Renault, ça fait, moi, facilement, j'ai pas cherché les précédents, mais ça fait facilement minimum 3 voire 4 fois.
Je me rappelle d'au moins 2 dessins, moi.
Oui, non, mais c'est vrai que par exemple, dans le même genre, on pourrait penser à, même si c'est pas les crous de roue, mais Massa à Singapour. L'an dernier, ça aurait pu être hyper dangereux aussi. Ou bien,
l'échappement. Ah, il a arrêté dans les stands. Ouais.
Là, c'est différent, c'est les stands. Là, ils ont quand même fait sortir le mec en sachant. Le pire, c'est que
l'échappement de Kimi.
Même au pilote, l'échappement de Kimi, ou alors un peu plus tôt dans la saison, c'est Vettel qui continue à tourner sur le circuit de comment ça s'appelle Vettel. Et puis il y avait eu, je crois, la Toyota en Chine, mais à Melbourne, il y avait eu Vettel. Continuent à tourner sur le circuit, ils ont eu que 50 000 dollars d'amende. Donc c'est vrai qu'effectivement, la pénalité pour nous, ça devrait être 50 000 dollars d'amende. Mais en même temps, c'est le genre de faute, quand eux, ils le savent, ils le trouvent l'écrou, le mec qui visse la roue, il le sait qu'il est en retard, qu'on a lâché Alonso plus tôt. Donc tout le monde le sait dans l'équipe à ce moment-là, ça communique vachement vite. Alonso les appelle en disant, je crois que la roue avant est crevée. Non, c'est bon, tu repasses au stand, on va voir ça. Attends, alors le mec, il le laisse en piste avec deux débris potentiels, puisqu'il y a maintenant il y a la flasque de la roue et il y a la roue avec deux débris potentiels. C'est une équipe qui cherche à se faire taper sur le coin de la gueule, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça sévère, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'aussi, il faut taper sur les équipes parce que, voilà, et je pense même pour aller plus loin, que l'une des réflexions, et ça fait plusieurs fois que je le dis ça, l'une des réflexions que pourrait avoir la FIA, c'est tout simplement de se demander qu'est-ce que nous, en tant que FIA, on peut dire sur le ravitaillement au stand. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas réduire le nombre de personnes? Moins il y a de personnes,
plus moins il y a de boulettes. Mais
non, mais tu sais, je pense qu'il y a moins de personnes, il y a moins de pression, il y a moins de gens qui t'entourent. Là, ils sont à 3 par roue, quoi. C'est n'importe quoi. Il y en a un qui prend la roue, un qui la ramène, un qui la... Qui la
tu veux que je te dise, t'as jamais connu ça, mais l'an prochain, ce sera encore pire, puisqu'ils feront des ravitaillements en 4 secondes parce qu'ils n'auront pas le plein à faire.
Mais est-ce que... Alors, l'autre possibilité, c'est est-ce que, par exemple, on pourrait pas définir un temps minimum de ravitaillement? Dire voilà, un ravitaillement
là,
ne doit pas...
Tu coupes l'herbe sous les pieds à ceux qui veulent faire un ravitaillement de plus ou...
Bah, ça provoque toujours un ravitaillement, donc ça garde l'aspect stratégique, la différence entre 2 et 3 ravitaillements. Mais ça ne donne pas l'importance du ravitaillement où c'est une course dans la course, le ravitaillement. Parce qu'on a quand même eu beaucoup de problèmes, surtout ces deux dernières années, d'accidents dans les ravitaux, où c'est la recherche de performance directe dans le ravitaillement pour gagner en course, parce que les mecs se disent, ce qu'on va gagner dans le ravitaillement, on n'aura pas à aller le rechercher en course. C'est là où je pense qu'il y a un petit truc à réfléchir au niveau de la FIA. Après, c'est vrai que c'est extrêmement sévère que de virer l'équipe, et je pense que l'équipe ne sera pas renvoyée.
Non, mais à ce moment-là, moi, il faut créer un nouveau drapeau, et que la FIA, pour un truc comme ça, réagisse très vite et dise au commissaire, voilà, cette voiture, vous lui passez tel drapeau qui veut dire arrêt immédiat. C'est ouais, pire voilà. qu'un drapeau noir, c'est arrêt immédiat, quoi. Mais pas sans aller au stand, quoi.
Voilà, c'est sévère, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut améliorer quant à ces arrêts au stand. Et surtout que les pneus, ça va continuer
l'année prochaine. Oui, non, mais je pense qu'il faut... Attends, il faut quand même pas vouloir aseptiser non plus la F1. Il y a des gens aussi qui... La F1, parce qu'ils aiment bien quand ça se cartonne un peu, quand ça fait un peu partie du sport, quand on dit... Il faut protéger, faire encore des trucs pour les casques des pilotes pour qu'ils puissent, ce qui arrive à Massa, que ça puisse pas se reproduire. Il faut savoir qu'un casque de F1, ça peut résister à 900 degrés, un truc comme ça, quoi. C'est mieux, c'est pire qu'une boîte noire d'un avion, quoi, hein, qu'en termes de chaleur auquel ça doit résister. Et, je veux dire, on peut pas, oui, c'est dangereux, ben, on le sait, c'est la course d'automobile, c'est dangereux. Il y a forcément des cartons, il y a forcément des accidents. Je pense que la FIA a fait quand même énormément ces dernières années pour limiter les morts ou les accidents graves, mais faut pas non plus que les gars ils soient on va pas leur installer un canapé avec la clim dans la voiture quoi non plus.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on va prendre un exemple. Moi j'ai beaucoup lu sur des forums ce week-end. Oui, dans ce cas-là, faut exclure de la course aussi Brawn parce qu'ils ont perdu une pièce. Faut bien différencier deux choses. On va prendre l'exemple de Brawn. Brawn perd une pièce. Bon, c'est un incident de la course, ça arrive, c'est des aléas de la ouais. course. On sait que c'est quelque chose de dangereux, que ce sont des pièces de bijouterie qui sont soumises à d'extrêmes tensions. L'accident de Massa, malheureusement, effectivement, la dernière fois qu'on a eu un tel accident, c'est en 72. Malheureusement, c'est les circonstances de course, ça arrive. Maintenant, la même situation, on apprendrait qu'en fait, cette pièce, elle est cassée parce que Brawn a volontairement choisi d'utiliser un matériau qui n'est pas fiable.
Ou toi, tu penses à une direction de... une colonne de direction
sur le médium. Mais imaginons, dans ce cas-là, on est bien d'accord que l'équipe doit être exclue.
Ouais.
Parce qu'il y a une faute volontaire de l'équipe. Par exemple...
C'est pas une faute volontaire,
La Renault d'Alonso... Maintenant, on revient sur Alonso. La Renault d'Alonso, elle fait 2-3 tours et puis... Pour une raison technique, l'écrou lâche, la roue s'en va. C'est déjà arrivé par le passé. Bon, voilà. Là, c'est quand même l'équipe, elle le sait à ce moment-là que la voiture, la roue avant ne fonctionne pas. Donc l'équipe doit être pénalisée. Alors c'est très, très sévère, mais doit être pénalisée pour le fait qu'elle a laissé en toute conscience la voiture pilotée. C'est comme ce qu'on disait à propos de Weber. La différence entre un accident de course et voilà, je te rentre dedans, bah désolé, je t'ai pas vu, ça arrive. Et le mec qui veut rentrer volontairement dedans. Les accidents volontaires doivent être pénalisés. Et ce que je trouve dommage avec Renault, c'est que j'ai vraiment l'impression avec Renault, c'est qu'ils se sont dit, il va finir le tour, il va continuer d'y croire. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ton système de drapeau. Mais il ne s'agit pas d'aseptiser la course ou de définir des normes trop fortes. Il s'agit juste de faire comprendre aux équipes qu'il y a une limite, il y a les aléas de la course et il y a votre responsabilité à vous en tant qu'équipe qui est de lâcher un pilote avec du matériel qui fonctionne, qui est d'assurer une fiabilité maximale, etc. etc.
Tu sais, je pense que le gars qui a vissé le pneu, la roue, il s'est dit, bon, elle est mal fixée, mais il n'a aucun moyen de juger en 4 secondes avec ses gants, avec son pistolet si effectivement il l'a mal vissée complètement et si ça va lâcher dans 200 mètres ou si quand même elle est quand même bien vissée et elle tiendra un tour, quoi. Et de la même façon, la FIA, si elle a la possibilité de...
Apparemment,
moi, je pense que c'est difficile de juger quand même.
Apparemment, les circonstances de l'accident, c'est que le mécano qui posait le boulon a pris un peu de retard sur les autres et il a fait un mouvement. Ils sont obligés de. Dans les équipes, la procédure, c'est que quand la roue est fixée, tu lèves la main. Et c'est encore une fois, c'est le mec à la sucette qui a cru voir le mécano lever la main, qui a levé la sucette et Alonso est parti.
Quand la voiture part,
automatiquement, le mec est
encore en train de fixer la flasque.
Voilà, le mec est en train de dire, écoutez, moi, j'ai pas eu le temps de finir toute la procédure. Donc, automatiquement, chez Renault, le réflexe, ça doit être, on arrête la voiture, comme a fait Massa l'année dernière avec le câble de...
Ah bah, c'est autre chose, il avait le truc au bout de la voiture, quand même.
Ah oui, mais à la limite, ils auraient pu le faire, dire, il part, il fait un tour, il revient, on lui retire. Là, c'est exactement pareil, ils savent qu'il y a la... Ils savent qu'il y a la roue qui risque de se barrer. Ils disent voilà, on arrête, on refixe le truc, quitte même à embarquer un peu les bâtiments. Et puis, ils le laissent repartir. Là, au final, ils perdent plus de temps, ils perdent même la course.
Mmh. Ouais. Non, puis je pense qu'en plus, que dans la tête des commissaires, cette image de la roue qui part, bah oui. Forcément, après ce qui s'est passé la semaine d'avant.
Non, bien sûr.
L'un des trucs, là, on a aussi l'un des exemples. Est-ce que les flasques avant, on en a besoin? On a quand même l'impression que ça
ouais. Gêne
plus les mécanos qu'autre chose. Est-ce qu'on a besoin de mettre les flasques avant? Ça serait un truc, ça serait d'interdire les flasques avant et les flasques arrière. C'est-à-dire, voilà, maintenant, les ravitaillements, ils seront plus clairs.
Bon, en tout cas, pour l'instant, ils ont la sanction. À voir si elle sera maintenue ou pas, quoi.
Ouais.
Elle se défend, bon, on peut trouver ça disproportionné par rapport à d'autres faits qu'il y a pu avoir cette voilà. Année et les autres années. Après, voilà, le problème, c'est que...
Ouais, mais comme tu l'as dit au départ, hein, deux semaines avant, ça aurait pas donné la même chose.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.
Bon alors, Shinji, on va meubler.
Bah ouais.
Bon, on parle un peu du retrait de BMW. Parce que c'est
oui.
La deuxième info d'hier.
Ça aurait dû être même la grosse info en fait. Comme quoi il est fort, Choumi, parce qu'il arrive à être plus fort médiatiquement que cette nouvelle qui est quand même pas anodine.
Comme quoi je pense que les fans allemands s'en foutent des constructeurs.
Ah oui.
Qui fait leur pilote, quoi.
Non, c'est une grosse surprise. Hein. Et apparemment, ça s'est vraiment fait dans un laps de temps très court. C'est-à-dire, donc, hier on était mercredi, apparemment ça s'est décidé vraiment mardi.
Ouais.
Et comme on l'a déjà dit, Kubica il avait resigné. C'est donc que vraiment, ça a été très soudain. Alors, leur motif, ça a été un repositionnement stratégique.
Ah oui. La formule est excellente.
Voilà, c'est pas la crise, c'est pas les résultats, non,
bah
c'est
non,
parce qu'on peut faire dans l'écologie et tout.
Mm.
Bah, je trouve quand même que c'est un immense gâchis, quoi.
Bah, surtout s'il y a vraiment... le gâchis, ils l'ont fait déjà l'an dernier, on va dire, hein.
Ouais, il y a déjà un gâchis l'an dernier, ouais.
Et c'était quand même une écurie qui a toujours tenu ses objectifs jusqu'à présent.
Oui, c'est
alors
ça qui
est... Est-ce que de ce côté-là, justement, ils ne sont pas trop mis la pression, quoi?
Ouais, et puis ça fait genre, vraiment, les premiers problèmes arrivent, on se barre.
Ouais.
Enfin, je veux dire, si c'était arrivé... T'imagines si Ferrari ou McLaren avaient fait la même chose, mais ça ferait 30 ans qu'ils seraient plus en F1.
Si Toyota avait fait la même chose.
Voilà.
Il serait resté 2 mois.
Non, quand j'ai vu l'annonce, j'ai regardé cette décennie BM. Globalement, en plus, elle est loin d'être mauvaise.
Ah bah c'est propre, hein, ce qu'ils ont
fait. Déjà, bon, avec Williams, cette période-là. Bon, c'est vrai, ça s'est fini en noeud de boudin et tout ça. Mais si tu regardes Williams BMW, c'est 10 victoires.
Ouais.
C'est bon, alors c'est, sur la période, on va dire, c'est autant chrono, mais Renault, maintenant, s'est concentré sur 2005. Mais c'est autant chrono. Et enfin, au-dessus de ça, il n'y a que McLaren et Ferrari. Et à part ces quatre équipes que j'ai citées, il reste une victoire pour Jordan entre 2000 et 2005. Donc globalement, on peut dire que Williams BMW sur cette période, c'est la quatrième équipe, vu qu'ils n'ont pas eu de titre, mais oui. qu'ils l'ont quand même joué en 2003. Ils ont révélé Montoya. Faut pas oublier aussi que Jenson
Button. Ils ont révélé Ralph. Ah non, pardon.
Ouais.
Si, quand même.
Oui, on peut le dire, oui, quand même. Jenson Button a commencé avec Williams. Donc, globalement, on peut pas dire que ça soit négatif. Et puis, c'est vrai, ils ont racheté Sauber. Là encore, tous les ans, ils ont réussi leur objectif. Il n'y a que cette année où ça marche pas. Donc, c'est pour ça, énorme gâchis. Alors, gâchis de l'an dernier, en effet. Encore plus maintenant, quand on pense se dire qu'ils ont peut-être pas gagné, mais joué le titre.
C'est triste aussi pour Sauber.
Oui.
Qu'ils avaient construit, du moins Sauber avait construit quand même cette équipe et quelque part il la condamne quoi. Ils avaient gardé le nom Sauber, mais
en plus oui. Puis voilà, on parlait de ceux qu'ils ont révélé. Ils ont révélé Kubica. Ils ont été les premiers à faire tourner Vettel.
Oui. Alors, Sauber c'est vrai a révélé Raikkonen.
Aussi. C'est vrai que BMW c'était pas l'équipe la plus sexy du plateau.
Non.
Mais ce qui était bien avec eux, c'est que quand ils sont venus, ils ont regardé le retour de Renault, ils ont regardé comment avait fait Toyota, et justement, ils ont réussi à prendre ce qu'il y avait de mieux et ne pas tomber dans les pièges.
On peut quand même revenir sur le premier homme, on va dire, de BMW, qui était aussi chez Williams, Gerhard Berger.
En effet, oui.
Et on a vu ce qu'il a fait après chez Toro Rosso. C'est quand même beau parcours pour un ancien pilote, quand même. À comparer ça avec un Jackie Stewart ou ce qu'a pu faire Prost.
Ah oui.
C'est quand même bon. Il a eu la chance de partir directement avec un constructeur, mais bon, Jackie Stewart aussi avec Ford au travers de Jaguar. Hein, donc maintenant, ça a été le rachat après, pardon. Stewart a débuté tout seul, mais quand même avec le soutien de Ford. Si, avec le soutien
ouais,
de Ford.
Il y avait le soutien de Ford. Ouais.
Donc, c'est quand même. Et du coup, tout le monde maintenant.
Oui. Ah, bah là, oui. Ça vous fait plein de questions. Hein. À Munich, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. À Inouïl, on ne sait pas ce que ça va devenir. Alors, il y en a qui parlent déjà de Sauber qui reviendrait. Attendez, Sauber, il a vendu son équipe à BM. C'est quand même pas pour la racheter à BM maintenant.
Surtout qu'il serait assez gourmand, il serait capable de lui en réclamer
voilà.
Une somme astronomique. Il a encore 20% des parts, hein, Peter Sauber.
Il y a les pilotes, quoi, cette question des pilotes. Surtout, on pense à Kubica.
Je pense qu'il n'aura pas de mal à se retrouver.
Oui, non, ouais, il n'aura pas de mal.
Mais bon, il était assez dans le moule, on va dire. Il était assez dans le moule BMW. Je le vois pas dans une écurie latine, style Ferrari ou.
Non, non. Peut-être Renault. C'est vrai que Renault, il y a ce côté anglais, peut-être.
Et du coup, on avait un peu soufflé de soulagement après le départ de Honda parce qu'on a cru à l'hémorragie.
Ouais.
Et finalement, ça s'était quand même bien terminé avec le rachat par Brown. Et là, à nouveau, on recraint une hémorragie vers Toyota, vers Renault.
C'est ça qui surprend en plus, parce que qu'un constructeur parte, bon.
Mais on attendait pas celui-là. Honda.
Voilà, on s'attendait pas à celui-là.
Faut pas aller voir le départ de BMW.
Bah, on a bien sûr,
parce que tu nous écoutes.
Voilà.
je viens juste d'arriver, donc je prends l'entrain en route. Sur BMW, moi, j'ai quand même un peu l'impression que c'est BMW, le constructeur, qui a appelé mardi matin BMW, l'équipe, en leur disant « Voilà, on arrête. vous mettez la clé sur la porte.
Ah oui, ça a été très soudain. Et,
De toute manière, c'est comme ça que ça marche. Hein.
Et c'est un peu le côté que je regrette dans les grands constructeurs. Je suis content de les avoir parce que c'est vrai que ça élève le niveau, qu'il y a le côté technologique. Mais malheureusement, on sait très bien que les grands constructeurs, quand ils ont une équipe, ils ont deux gestions. Ils ont la gestion de l'équipe et la gestion du constructeur. Et l'excuse de BMW, c'est on redirige notre stratégie sportive vers l'éco-environnement, etc. Donc la F1 correspond plus trop vraiment. On se rappellera quand même qu'en F1, il y a un système qui s'appelle le KERS, qu'ils ont fait chier tout le monde pour le garder et qu'ils ne s'en sont pas servis. Et qu'en tant que constructeur, en ayant la main notamment, en participant à la FOTA, ils auraient par exemple pu vendre l'utilisation d'agrocarburants, l'importation de technologies solaires sur la voiture par des petits capteurs solaires pour faire fonctionner les batteries, etc. Je pense que là-dessus, ils auraient eu plus à gagner en étant au milieu de la F1 et en faisant la promotion de ces idées vertes qu'en disant voilà, on se barre parce que ça nous va pas. Mais le plus inquiétant derrière BMW, c'est le silence de Renault.
Juste sur BM, dire qu'ils partent quand même sur une sublime humiliation. Parce qu'ils ont tout fait pour que le KERS soit dès cette année. Donc quasiment toutes les équipes l'ont arrêté. Et le Grand Prix avant qu'ils annoncent, qui c'est qui gagne ? Mercedes avec le KERS.
Voiture avec le KERS.
Moi, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente émission. Ce qui m'étonne, c'est que ce KERS, il ne l'ait jamais mis en place alors qu'ils ont des voitures de série qui ont des systèmes de récupération d'énergie comme ça au freinage. Ouais. Ça existe dans leurs voitures de série. Quoi. Et ils n'ont pas été capables de foutre ça sur la F1. Quoi.
Je pense qu'en fait, c'est encore une fois, c'est cette relation équipe et constructeur. Je pense que c'est le constructeur qui a imposé ça et l'équipe, malheureusement, a été incapable de se dépatouiller du KERS. Tout comme McLaren et Renault se sont concentrés dans leur développement sur le KERS, laissant la voiture un peu de côté et oubliant de développer autant.
C'est pour ça qu'il est aussi moche, la Renault.
Et au final, ouais, c'est sans doute pour ça. Il y avait déjà une interview de Mario Tessen au mois de mai, je crois, qui disait oui, les résultats sont mauvais cette année, mais on n'a pas de nouvelles du board. Ouais, donc c'est que ça doit être bon signe. Ah, oui, effectivement, si au mois de mai tu dis j'ai pas de nouvelles du board, c'est que ça doit être bon signe, c'est que t'as pas de relation avec le constructeur. Donc, le constructeur du jour au lendemain, il arrive, il dit comme il a fait là, nous on arrête. Ils ont convoqué Tessen, ils lui ont dit juste avant la réunion, nous on arrête. Et moi, c'est vraiment l'impression que ça me fait, surtout qu'ils ont signé Kubica il y a trois jours. Quoi. Tu signes pas un pilote pour derrière le remettre sur le marché du travail.
Ah oui, puis, ça fait que l'avenir, c'est un gros point d'interrogation pour toutes les installations.
Bah, y a plusieurs repreneurs qui sont possibles. Il y a toujours Peter Sauber qui possède 20% au départ. Mais Peter Sauber a dit que le contexte n'était pas propice à une reprise. Mais on se souvient du scénario Braun, une reprise de l'intérieur aidée par la FIA, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est viable à long terme? Je ne sais pas. Il y a l'hypothèse Epsilon qui pourrait racheter. Voilà, moi je pense quoi qu'il arrive qu'on aura une équipe qui se glissera et que je pense que la FIA doit essayer de trouver une solution.
Ah bah vu le nombre de candidatures qu'il y avait, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se bouger, mais bon.
Le problème c'est que maintenant il y a des procédures judiciaires qui sont engagées quant à l'affaire des moteurs Cosworth. Que peut-être que les constructeurs sont, que la FIA a du mal à trouver une autre équipe qui voudrait venir avec un moteur Cosworth et peut pas en même temps accepter une équipe qui viendrait avec un autre moteur Cosworth parce que ça les décrédibilise. Ouais.
D'un autre côté, les autres moteurs, il y en a quand même pas beaucoup sur le marché, quoi.
Bah non.
Et c'est ça aussi le truc qui est dommage, c'est que BMW ils ont un moteur. Pourquoi est-ce qu'ils continuent pas?
Oui, voilà, au moins.
Le moteur, il est fait. Il n'y a pas de développement à faire sur les moteurs puisqu'ils sont gelés jusqu'à je ne sais plus combien de temps. Et puis s'il y a des développements à faire, ils mettent une petite équipe. Et quitte même à la limite, s'ils ne veulent vraiment pas avoir leur nom associé à l'image de la F1, ils font comme avait fait Mercedes avec Ilmor. Ils mettent un deuxième
nom. Ou bien le rebadge Petronas, comme les Ferrari.
Comme avait fait Sauber, ils rebadge Petronas. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas de problème.
Et pour peu que Renault suive le pas, c'est pareil, Red Bull va se retrouver sans moteur. Mais je pense que Renault, s'il se retirait, il conservera la fourniture de moteur.
Renault, ouais. Vu le problème de BMW et le silence de Renault qui est quand même Même Mercedes, qui pourtant est pas forcément sur le premier visé, hein, quand on pense à un constructeur qui part, a confirmé qu'il restait. Pour moi, Renault, c'est le silence. Moi, je pense que Renault est en train de préparer son départ. Il va dépendre, bien évidemment, de l'appel pour le Grand Prix de Valence. Et je pense qu'effectivement, Renault est dans une stratégie qui est beaucoup plus une mentalité Formule 1. Bon, je pense que Renault, quand ils vont partir, ils vont se dire, on part, mais on a déjà un racheteur. Briatore a déjà trouvé des fonds. Moi, je pense que Briatore, il est déjà en train de courir dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, Renault pourrait rester en tant que motoriste, puisqu'ils ont déjà les moteurs.
Puis Renault, c'est cyclique chez eux. Hein, de toute
ouais,
manière.
Voilà. Ouais.
Voilà donc,
Mais de toute manière, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et quand tous les constructeurs arrivaient, on avait très bien dit, de toute manière, tous ne pourront pas gagner. Et forcément, quand les résultats seront pas là, ils se casseront. Et on se retrouvera avec à nouveau les petits artisans que sont Williams, que sont Minardi. Bon, ça a changé de nom depuis. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. On est en train de le vivre.
On est en train, de revenir à ça.
Si les grands constructeurs commencent à se barrer, une équipe comme Williams redevient très compétitive.
Bien sûr.
Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on parlait de Rosberg tout à l'heure, je pense que Rosberg, il doit se dire, attention, je vais être chez Williams. Il n'y a plus BM devant, on a un bon partenariat. En plus, Williams va peut-être essayer d'attraper Robert Kubica. Donc, si Williams arrive à proposer l'équipe, la grosse équipe que veut Rosberg, il peut revenir dans une petite équipe qui aura tout d'une grande l'année prochaine. Puisque Williams, c'est une surprise cette saison, mais Williams, c'est quand même une équipe qui est en pente ascendante depuis quelques saisons.
Depuis
déjà.
L'arrivée de Rosberg,
Il s'améliore.
Ouais. Il y a eu un peu de difficulté suite justement au départ de BMW, quand même.
On en parlait,
Faut pas se le cacher, mais depuis, ils remontent la pente et chaque année, ils font un peu mieux.
Bien sûr. Et le partenariat Toyota. On passe à la course,
quand même. Il y a eu une course.
D'abord à la qualification, et puis c'est justement là qu'on va parler vraiment de Felipe Massa et de son accident.
Moi, surtout, ce que j'ai tilté, c'est le casque. Ça, c'est la première inquiétude. C'est pas tant le choc, bon, même si on sait que c'est jamais positif de rentrer dans les pneus comme ça, mais c'est surtout après quand tu vois que le casque ne bouge pas.
Et j'ai trouvé d'ailleurs la réalisation très bien parce que c'est bien plus tard, c'est bien 10 minutes, un quart d'heure après qu'on a vraiment vu ce qui s'était passé. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Je l'ai vu ce putain de débris.
Au début, on ne savait pas trop.
J'étais un peu comme
les commentateurs, tu sais, comme on voyait que la pièce, que d'un côté, ça faisait un truc rond. J'ai quand même un écrou, c'est gros, quoi.
Pardon, j'ai vu les premières images le soir à l'hôtel. On s'est connecté pour regarder, pour chercher une vidéo. On a vu ça sur YouTube. Et on a vu, c'est un montage qui avait été fait sur TF1. Et je pense qu'on a arrêté depuis un certain temps les cartons rouges à Malbranque. Mais là, je vais quand même lui en remettre un. Parce qu'on a vu, il y avait le montage. Donc, on voit l'accident sur le coup. Et après, on voit quand ils ont montré la pièce qui lui revient dans la gueule, du moins qui lui arrive dans la tête. Et il est blessé avec ça. Et la séquence de vidéo se termine où on entend Malbranque. Est-ce qu'on peut recadrer l'image là pour bien revoir la façon dont c'était dit? C'était « Ouais, on va faire de l'audience avec ça, quoi. »
TF1 a été très critiqué sur ça, sur le fait qu'ils ont beaucoup rediffusé les images, etc. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un accident tellement incroyable.
Oui, il faut le dire.
Et je l'ai vu dès qu'ils ont passé le ralenti vidéo intérieur, j'ai vu le débris. Et je sais que certains avec qui j'ai pu parler après n'ont pas vu le débris sur le coup parce qu'ils s'attendaient juste à une sortie toute simple. Il perd la direction, donc il fait un écart et ils n'ont pas compris la première fois qu'ils ont vu. Ils ont dû attendre de voir une seconde fois pour comprendre. Et je pense que c'est un incident qui est tellement incompréhensible. Un ressort comme ça, il y en a qui pensaient que c'était des canettes, etc. Ouais, ouais. Puis un ressort comme ça.
Lui-même d'ailleurs, Massa ne s'en rappelle pas. D'après les infos, il
apparemment il s'est réveillé en demandant ce qu'il faisait là. Mais c'est l'accident en soi. Honnêtement, j'ai un très très vague souvenir de l'accident de Senna, plus par réaction émotionnelle, fait qu'on était tous devant la télé à regarder et pas vraiment des images. Et de mémoire, donc depuis 15 ans. J'ai jamais eu autant peur pour un pilote que ce. Et pas parce que c'est un pilote Ferrari, mais.
Il y a deux ans quand même, moi je me rappelle de l'accident d'Hamilton dans les jambes où après il se coule les jambes quand même. c'était où c'était pas en Hongrie déjà, ou en Allemagne. Il se prend le mur de pneus et après il a un réflexe où il tape des pieds ou je sais pas quoi. On a l'impression sur le coup vraiment qu'il souffre et
sur le coup il est vite sorti et c'est une sortie entre guillemets, on est un peu habitué à ce genre de sortie.
Il y a Kova aussi qui nous a fait aussi un
Genre juste derrière, ouais. Alors lui, par contre, il était rentré de la tête entière. Il y a aussi eu Kubica, mais bon, par contre, moi, ça, je l'ai pas vu en direct, donc je peux pas dire. En dehors, c'est de l'incident de Kubica qui, après, quand tu le revois, il est effroyable. Là, pour le coup, c'est le choc à la tête, quoi. C'est assez impressionnant. Et moi, alors, j'avais les yeux rivés sur le bas de l'écran et je voyais la visière se soulever. Et juste avant, signe prémonitoire, F1 Racing a consacré un article sur les casques. Ouais. On en avait même parlé lors de la dernière émission. Et dedans, il y a les deux précédents, qui sont le précédent d'Alan Alan Stacy en 1960, qui se prend un oiseau en pleine tête et qui meurt. On le retrouve, hein, le visage ensanglanté et des plumes le visage. Et l'accident plus tard d'Helmut Marko, mais en 72.
Plus effrayant, le F1 Racing, il y a une interview de qui ? Il y a une interview de Massa. Et pour parler de ces résultats moyens de la Ferrari, ils mettent Massa n'est pas encore KO. Waouh. Wow. Ouais.
Et c'est ça en plus. Hein. C'est mine de rien, on est quand même dans un sport extrêmement superstitieux. Et moi, je le suis vraiment beaucoup. Hein. Je crois aux cycles, je crois aux séries, etc. Moi, quand il y a deux avions qui se crashent à 6 mois de distance, je suis convaincu que c'est une série noire. Voilà. Là, dès que j'ai vu l'accident, je me suis rappelé l'accident de Surtees. Et je me suis dit, voilà, on part dans un week-end, il va y avoir des trucs dramatiques. Et Enzo, juste derrière, qui me dit au téléphone, tu te rappelles la dernière fois qu'un Brésilien est allé voir un autre Brésilien à l'hôpital? Et là, je me suis imaginé Senna allant voir Barrichello en 94 et Senna mourant le lendemain. Enfin, deux jours après.
Et il me dit, il faut qu'il fasse gaffe.
Barrichello, le pauvre. Mais je suis sûr que ça les a marqués, les pilotes.
Barrichello a dit qu'il y avait pensé chaque tour.
Ça a marqué tout le monde. On sentait bien pendant la course le lendemain, il y avait une lourdeur. Tout ce qu'on a parlé sur Renault et tout ça, ce qu'on pourrait dire sur Weber, c'est pas le seul facteur. Mais on sentait quand même qu'il y avait une lourdeur, quoi.
Et même Kimi. Hein.
Oui, oui.
Moi, j'ai trouvé. Alors, il y en a certains qui ont critiqué Kimi parce qu'il n'a pas eu un mot pour Massa, etc. Je pense qu'il l'a fait comme il le sentait et que je pense qu'il aurait trouvé, il aurait pensé que ça faisait faux s'il parlait de Massa et s'il se mettait à dire oui, je pense à mon coéquipier, etc. Il l'a joué très sobre et même sur le podium, il n'a pas explosé de joie sur le podium, il était très sobre. Il a été, on l'a quand même senti marqué par cet accident. Et donc je voulais défendre Kimi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que. C'est un peu le paradoxe, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, quoi. On veut lutter contre ces accidents, mais indirectement, c'est aussi ce qui fait le piment de notre sport, quoi. C'est le risque, c'est des mecs qui roulent à 300, c'est des sensations fortes, et c'est effectivement cette petite adrénaline qui fait que voilà, quand il y a un accident, bah on vit l'accident. Moi, j'ai passé un samedi incroyable, hein, j'étais déprimé. J'ai même parlé à Shinji sur MSN, il était moins de 23 heures.
Tu m'as dit oui, que tu ne trouvais pas le sommeil.
Et il était moins de 23 heures, j'étais persuadé qu'il était 2 heures du matin. Quoi. Et j'étais étonné de voir Shinji connecté à cette heure-là. Parce que j'avais plus du tout notion du temps, et je me suis même abonné au Twitter de F1 à la Une pour avoir des nouvelles. moi, ce que je pense honnêtement pour Massa, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il revienne trop tôt, et que même s'il en a l'envie, qu'il se prépare pour 2010, voilà, il va être papa bientôt. Sa femme est enceinte de 3 mois, il va être papa avant la fin de saison. Il profite.
Qu'il nous fasse une Niki Lauda. Il revient, champion du monde en 2010.
Voilà.
Qui c'est, Schumi?
Non.
Non.
Ah, ça y est, Enzo.
Ah, il sent plus. Hein.
Donc, on passe au sport, enfin vraiment à l'aspect sportif des qualifs, avec ces petits moments mémorables. De Alonso qui passe la ligne des stands
en
allant chercher d'autres pilotes. T'as fait combien?
Bah, moi j'ai fait
une 21.5 et toi t'as fait combien? Bah, moi j'ai fait 21.6. Donc je suis premier. Bah oui, t'es premier. Personne n'était sûr. Quoi.
Ah mais c'est ça la technologie, c'est qu'on repose dessus. 364 jours par an, ça marche très bien. Et puis bah, le jour où ça marche pas, on est complètement paumé.
Voilà.
Ah. Et dire qu'on se moquait de Jean Todt avec ses chronos.
Ouais. Au point que même TF1 est parti sans nous dire qui était en pôle.
Bah ouais. Il y avait une grosse suspicion sur Alonso, mais bon.
Ils pensaient que c'était Alonso, mais c'était. Alors eux, c'était Alonso devant Hamilton et devant je sais plus qui, sauf que c'était Alonso devant Vettel et Weber.
Donc, non, en plus, c'est vrai que ça fait un peu sas de décompression. C'est vrai qu'on avait plus le sourire aux lèvres, malgré ce qui s'était passé avec Massa. C'était étrange.
Ouais, on a eu beaucoup d'émotions contradictoires ce week-end, je trouve. Donc, c'est la 18e pole de Fernando Alonso. Alonso qui partait extrêmement léger.
Ah oui. Léger comme une plume, vraiment, là.
Normal, il avait une roue en moins.
Alors, l'estimation, c'était 13. Et il est rentré au stand à 11e. Parce qu'apparemment, il usait trop rapidement ses pneus.
Mais il y avait quand même très peu de chances qu'il fasse quelque chose en course, à part un podium.
Ouais.
Mais, ah, c'est jamais un pour la Renault.
Oui.
Mais même pendant le premier relais, quand Hamilton a passé. A passé Weber, on a su qu'il est remonté comme une flèche sur Alonso et on a su que pour Alonso c'était bon. Donc pôle d'Alonso, tu disais justement Enzo devant les deux Red Bull, celle de Vettel et de Weber.
Oui.
Les Red Bull n'ont pas vraiment semblé en pleine forme ce week-end.
Non.
Bien, mais pas en pleine forme.
Bah, on compare souvent le tourniquet hongrois à Monaco et on peut pas dire que les Red Bull avaient brillé en principauté.
C'est vrai, t'as raison.
Ah, mais elles avaient pas encore toutes leurs modifs.
Et je suis d'accord avec toi, mais.
Ouais, mais bon. Les qualités globales de la voiture, tu sais, parfois.
Ce qu'il faut dire, c'est que le truc de la Red Bull, c'est
pas
que
certains circuits.
La Red Bull est l'une des voitures les plus longues, et on sait très bien que les voitures à empattement long sur ce genre
de. Ils l'ont allongé en plus, là.
Ils l'ont allongé en plus, pour mettre le lest à l'avant, en fait. Donc Hamilton, 4ème position. Alors pour le coup, c'était presque une petite déception.
Oui, enfin. Ça confirme l'Allemagne.
Ouais.
Parce que l'Allemagne, tu te souviens aussi, ça s'était mal passé en course. Il y a vraiment un retour de McLaren.
Ensuite, on va passer un peu plus vite pour aller vers Button qui était 8e position. Alors, c'est vrai qu'il faut dire quand même pour les qualifications, c'est que donc suite au problème de Barrichello, la FIA a inspecté l'arrière de la voiture de Button. Qu'on a peut-être effectivement changé ce fameux ressort chez Brawn, et que donc Button a raté quasiment les trois quarts de la séance, il a dû sortir au bout de 3 minutes, et qu'ils sont partis avec l'idée, on va faire un temps avec le plein, et puis comme ça, on va essayer de se qualifier le plus près possible, ils sont partis avec cet espoir-là de partir avec le plein.
Ça n'a pas dû être facile pour eux quand même, même si c'est pas de leur faute, hein, mais non.
C'est jamais bien quand même dans son cas, mais surtout c'est Brawn, il le connaît Massa, donc... On voyait Brawn, généralement, dans n'importe quelle équipe, on enverrait un mécanicien inspecter l'arrière de la voiture. Là, c'est Brawn qui allait lui-même inspecter l'arrière de la voiture. C'est que vraiment, ça lui tenait à cœur de savoir si ça venait d'une de ses voitures ou pas. Donc, en 10e, on avait Massa, mais à partir de là...
Parce que, faut le dire, c'est qu'il il s'est qualifié pour la Q3.
Voilà, il aurait même pu améliorer dans les dernières secondes. Malheureusement, c'est arrivé dans son tour lancé. Donc à partir de là, comme il n'a pas pris le départ, on a avancé toutes les places d'une grille. Donc les places qu'on va donner, c'est les places sur la grille. Mais en qualification, c'est une place derrière. Buemi, donc il part 10e, s'est qualifié 11e, ouais. Il part 10e.
Pas mal, c'est très, pas mal, très bien. Je trouve. Ouais.
Il profite à plein des évolutions de la Toro Rosso. Et puis on peut-être s'attarder juste 30 secondes sur Alguersuari.
Il n'a pas fait de faute.
Il a fait un bon début de week-end, même un bon week-end dans l'ensemble. Mmh. Mais alors là, le coup de Toro Rosso, oui, il a eu un pépin technique dans son dernier tour lancé. Mon cul macage, quoi. Sérieux, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il peut être dernier, quoi. Ça arrive, c'est un débutant, on le comprendrait. Mmh. Donc voilà. Ça a quand même sorti de la grosse excuse vaseuse, le coup de l'accident mécanique. Et je crois que personne n'y a cru dans le paddock, d'ailleurs. Donc, on fait la course.
Ouais.
On va pas s'attarder beaucoup sur la course, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la course. Votre sentiment d'ensemble sur la course, bonne course, course nulle
Moi, j'ai apprécié.
Je me suis un peu endormi.
C'est quand même dingue quand on pense qu'il y a 4-5 mois. Hein, je vous rappelle, on est début mars, il y a les essais d'avant-saison. On voit que la Brawn est la
Red Bull. On dit les Paris.
Euh, Non mais on voit les Brown et les Red Bull qui font des bons temps, mais on se doute pas encore que ça va être
à ce point-là.
Qui va se passer. Et puis on voit la McLaren et puis on se dit mais elle fait des temps mais catastrophiques. Elle a un lot aérodynamique, le Fusune, le flux vert, machin et tout. Et au final, bah derrière Brown et Red Bull, qui c'est les premiers à récupérer une victoire, bah c'est eux. Avec le Kers. Ils rentrent dans l'histoire, c'est la première victoire d'une voiture avec le Kers.
Mais après, enfin, sur la victoire de Lewis, on va pas lui retirer sa victoire. Il a dominé le Grand Prix. Oui, il a dominé. Oui. Honnêtement, une fois qu'il avait passé Weber, il avait course gagnée. Il n'y avait rien à faire. Très bon départ, il dépasse Weber. Il a course gagnée puisque Fernando Alonso est sans doute sur une stratégie à 3 arrêts ou une stratégie à 2 arrêts mais avec un relais long. Il n'a pas le Kers. La voiture était clairement au niveau performance, bien avec moins d'essence, moins performante que la McLaren. Donc la McLaren était au-dessus du lot ce week-end. Cependant, c'est le Hungaroring. Tu fais un bon départ, t'es devant. Après, pour repasser, c'est très dur. Et on a eu une course assez habituelle. C'est que voilà, il y a eu des actions, mais globalement, tu pars devant, t'es devant quoi.
Il y a eu quelques dépassements. Enfin, j'ai trouvé que par rapport à l'image qu'on donne de ce circuit, il y a eu beaucoup de dépassements.
L'image que vous donnez.
Non, il n'est pas beau ce circuit.
On va y revenir, t'inquiète. Donc voilà.
Je sais, ça choque Yannick, mais je suis content pour la victoire d'Hamilton, mais
je sais pourquoi t'es content. Pourquoi? Et la raison qui fait que t'es content ne me choque pas. Mais quand même, moi, ça me fait mal au cul.
Pourquoi tu dis ça? C'est pourquoi je suis content.
Bah, je pense que t'es content parce que c'est pour un champion du monde, il gagne et je pense que t'es quand même content de pas le voir malmené comme il l'est depuis le début de saison. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis relativement d'accord, mais
la Hongrie, je rappellerai juste, deux courses en Hongrie pour montrer quand même que c'est atypique comme circuit. Premier, c'est il n'y a pas si longtemps, Button qui gagne sa première course. C'est bien là-bas, il me semble. Hein. Bon, certes, il pleuvait, mais voilà, c'est quand même un coup de bol, entre guillemets. Et puis, l'autre course, c'est en 97, où Damoni a dominé avec son arrose, alors qu'ils étaient au fond du trou toute l'année, quoi. Bon, il s'est fait doubler par Villeneuve dans le dernier tour, mais c'est quand même des circuits où on a des grosses surprises parfois, quoi.
Voilà. C'est une bulle, quoi. Dans la saison, c'est une bulle.
Voilà, c'est un circuit typique.
Comme Monaco.
Voilà. J'attends vraiment de voir. Je pense que le potentiel de la McLaren s'est amélioré. On l'a vu en Allemagne, mais j'attends vraiment de voir sur les grandes plaines que sont Spa, Monza, Suzuka et compagnie, de voir vraiment ce qu'elle vaut. Parce que
plaine, c'est assez vallonné quand même.
C'est des grands circuits. C'est le grand air. Là, c'est un petit circuit super ratatiné que j'adore. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est très atypique. La preuve pour que Kimi fasse une deuxième place. Donc, tiens, justement, à l'occasion qu'on parle de Kimi, on va peut-être revenir sur ce départ.
Oui, bah...
Moi, il m'a pas choqué, son départ. Hein.
Moi non plus.
Alors, c'est ça qui me sidère, c'est qu'il y a des fans qui mélangent tout, quoi. Si vous nous écoutez, je vous le dis clairement, pour ceux qui pensent que Kimi et Weber, il y a deux semaines, c'est pareil, c'est pas pareil.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Se glisse. Dans le premier accident, Kimi se glisse dans un trou, voilà. Donc, et puis après, quand ils ont passé le premier virage, ils sont 4 de front.
Oui, voilà.
Le seul responsable là-dedans, c'est pas Kimi Raikkonen, c'est le Kers. On découvre enfin que, effectivement, avec le Kers, quand les voitures, quand on a des Kers qui sont vraiment très près de la pole position, et ben, on a des départs qui sont très très mouvementés par la différence de performance. Mmh. Et c'est tout aussi dangereux que d'autres choses. D'avoir ce Kers.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sinji également, t'étais pas là, mais ce que la FIA devrait faire, c'est éditer une bonne fois pour toutes une liste des sanctions associées à, et les pénalités associées à chaque infraction, et qu'on dise pas, il y a un incident comme ça, qu'on dise pas, on décidera à la fin de la course ce qu'on va faire, alors que pour Weber, on avait fait autrement en Allemagne.
Ce que j'ai remarqué, c'est que Weber, incident, pareil, premier virage de course, il a droit à un drive-thru dans le premier quart de la course. On est d'accord? Raikkonen, il y a un petit litige. Les commissaires disent, ah, on verra ça après la course.
Et c'est ça qui est le truc.
Alors, pourquoi une différence? Il y avait tout à fait le temps de la part des commissaires de traiter le cas Raikkonen.
C'est peut-être plus flagrant aussi le cas Weber. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a indirectement par ce vide sur les pénalités exactement. On a eu Weber qui a été pénalisé, mais comme sa pénalité lui a été collée en course, il a pu se refaire la cerise après. Si tu discutes d'un incident après et que tu mets une pénalité à effet rétroactif, tu peux plus rien faire contre cette pénalité. Tu peux plus te reprendre. Donc soit on décide de donner.
Tu peux changer ta stratégie ou faire quelque chose. Hein.
Voilà. Tu mets automatiquement la pénalité en course, soit tu avoues toutes les pénalités après la course et tu donnes des pénalités. Mais il faut choisir. Soit tu laisses l'opportunité au pilote de corriger sa faute, tu le punis et tu le laisses en piste. Se déchirer pour revenir comme a fait Weber. Soit tu considères que le pilote, on juge l'incident à tête froide à la fin, avec l'opinion de tout le monde, le renfort des vidéos, et c'est à la fin qu'on sanctionne une pénalité en temps, comme on a fait pour Lewis Hamilton l'an dernier, ou une pénalité en points, ou une pénalité financière, voilà.
Et surtout, éditer une liste avec les
pénalités. Que ça soit clair, quoi. Qu'on sache que s'il a fait ça, tout de suite, on dit, ah ben, il risque ça. Voilà.
Ça évitera la polémique sur les fameux commissaires de la FIA.
Voilà.
Parce que là, il se passe un truc, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Rétrogradation de place, drive-thru, stop and go, 25 secondes après la course, sanctions financières, suspension de course.
Je dois avouer aussi dedans, qu'est-ce qu'on tape dessus, vraiment, le grand défaut des commentateurs, qui, à mon avis, ne font pas assez preuve de pédagogie. On parlait de Marc Weber, c'est lui qui fait la bonne opération du week-end puisqu'il est troisième.
Ah, j'ai pas trop compris justement quand les commentateurs, encore une fois eux, disaient que McLaren et Ferrari en fait aidaient, étaient en fait le fait qu'ils reviennent aidait Red Bull plus que Rhône Grand Prix, alors qu'ils pensaient que ça serait l'inverse. Non, je suis pas d'accord. Il l'empêche de prendre 10 points, je suis désolé. Pour l'instant, ce dont ils ont besoin, c'est de prendre des gros points.
On est bien d'accord, il l'empêche de prendre 10 points. Mais pour le moment, ce que nous a appris ce Grand Prix de Hongrie, c'est que on a les McLaren et les Ferrari qui vont empêcher, certes, Red Bull de prendre des points, mais qui vont surtout empêcher à Brown d'en prendre.
Oui.
Brown perd ses points tout seul, hein.
Voilà.
C'est le cas. Non, mais c'est le cas si Red Bull est encore devant McLaren et Ferrari.
Sur un circuit moins atypique, je pense que les Red Bull seront devant et que c'est là que les McLaren, le retour en forme de McLaren et de Ferrari, va être intéressant pour Red Bull parce qu'ils vont s'intercaler. Et c'est ce que tout le monde dit. Hein. Button s'en inquiète et Weber dit pour le moment, nous, notre jeu, c'est ce que McLaren et Ferrari se mettent entre nous. Et c'est justement ce côté-là qui est positif. Sur ce Grand Prix-là, effectivement, c'est pas positif parce qu'ils empêchent à Weber de reprendre des points. Non. Mais il en prend quand même parce que dans ce cas-là, c'est eux qui sont devant et c'est pas les Brown. Mais le retour en forme est aussi synonyme que pour les prochains Grands Prix, on risque d'avoir les Red Bull avec derrière les McLaren, les Ferrari et seulement derrière les Brown. Et là, pour les Brown, ça va commencer à devenir très compliqué.
Ouais.
Et Button, aujourd'hui, semble relativement inquiet.
Oui.
Mais je pense qu'on est en train de se diriger vers une fin de saison un peu identique à celle de l'an dernier. Les grosses équipes que cette année sont Red Bull et Brown font des erreurs, ce qui ouvre des portes pour les équipes de second plan. Comme l'année dernière, les erreurs de Ferrari et de McLaren avaient ouvert des portes à Renault ou à Toro Rosso ou à BMW. Je pense qu'on se dirige vers un scénario comme ça, où les erreurs des deux équipes vont profiter aux autres.
Et pour le coup, ça a commencé, et c'est même un peu plus tôt que ce qu'on l'imaginait.
Ouais, mais
le voir dès le Grand Prix de Hongrie.
On en revient à la même question. Est-ce que c'est ce que disait Enzo ? On est quand même sur un circuit atypique. Est-ce que
retour en forme oui, oui.
est vraiment définitif ? Faut confirmer ça dans les prochains Grands Prix. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que théoriquement d'ici Valence, il n'y aura pas d'évolution sensible. Donc, on aura grosso modo des performances identiques. Donc, on aura déjà deux Grands Prix pour comparer et pour voir ce qu'il en est vraiment.
Ah, les seuls qui vont quand même progresser de façon spectaculaire, c'est Ferrari avec Schumi.
C'est...
Pour eux, c'est comme si, en fait, c'est comme si eux, ils bossaient pendant un mois et les autres s'arrêtaient, quoi. T'imagines l'avantage.
Et un truc sur Schumi, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour son état de forme, hein, son manque d'essai. Mais en même temps, Schumacher, il a 500 millions de fortune. Il doit sans doute avoir dans son garage une vieille F1 Ferrari.
Mais il en a.
Il peut très bien louer une équipe de mécanos, louer un circuit pendant 3 semaines et se faire des essais.
Rien ne lui empêche.
Même Ferrari, limite, peut les louer. Donc, sur la suite du classement, pour faire plaisir à Enzo, on va citer la 4ème place de Nico Rosberg.
Pourquoi ?
Comme ça, pour te faire plaisir.
Ça me fait plaisir.
Non, mais. Je sais que t'aimes bien quand on parle de Rosberg, même si t'aurais préféré qu'il soit sur le podium. Mais bon, t'es content ?
Eh oui.
On va en passer à l'heure. Oui, très bien. j'ai noté Kovalainen, justement, par contraste avec...
Allez, on passe.
Avec Lewis. Ah ouais, moi, si t'as rien d'autre à dire sur Nico, moi, j'ai rien à dire. Shinji, t'as quelque chose à dire ?
Moi non plus, j'ai rien à dire. Enfin, c'est bien. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est que c'est bien.
Voilà, on est bien d'accord.
Non, mais il a tenu le rythme par rapport à Weber.
Il part cinquième, il finit quatrième, bon.
Non, mais celui de Weber, il est pas ridicule par rapport à la.
Il est juste bon derrière. Quoi.
Ouais, donc. Bah, c'est quand même pas mal sur 70 tours.
Ouais.
D'accord.
Mais je te taquine. Donc Kovalainen, juste.
Il sera sur le podium avec Schumi prochaine course.
Ah, ça serait bien, tiens. Eh. Kovalainen, juste par contraste avec Lewis. Kovalainen finit à 34 secondes. Talonné par Timo Glock.
Ah, voilà, c'est dit.
Et, donc Timo Glock 6ème. Jenson Button 7ème qui sauve les meubles.
Voilà, ça veut dire ça.
Ah, il sauve les meubles, il sauve
quand même. Sauve 2 points.
Parce que sans la boulette de, j'allais dire la connerie d'Alonso, c'est pas Alonso, mais c'est la boulette de Renault. Sans la boulette de Renault, il serait une place derrière. Sans la sortie de Vettel, il serait pas dans les points. Donc, il s'en sort bien. C'est pas top, mais il s'en sort bien. Son coéquipier Rubens Barrichello, 10ème. Rubens Barrichello, dont je ne meurs pas d'envie, juste pour vous ressortir la citation de Rubens, parce que je trouve ça excellent. grosso modo, il dit que pour lui, il est qu'à 26 points de Button et que maintenant, il lui suffit juste de... C'est tout bon pour lui parce que maintenant, la pression, elle est sur Button et que lui, il a juste à prendre plus de points que Button.
Ouais.
On rappellera, ouais. Juste, on rappellera juste à Rubens que Button n'a pris que 2 points et encore parce qu'il a été un petit peu emmerdé en qualif, que lui ne s'est pas qualifié en Q3 pour la première fois cette saison et qu'il finit 10ème. Voilà.
Ah, mais je pense qu'il a repris un discours de début d'année quand il était chez Ferrari, il a essayé de l'adapter, quoi.
Voilà. Il a changé les noms. Quoique Brown, ça reste. et puis on va, avant de passer à Alonso et Vettel, on va juste mentionner Albert Schwery. Qui fait pas d'erreur, qui finit devant Buemi, mais attention, il finit devant Buemi parce que Buemi est sorti.
Voilà.
Hein, il a loupé un virage, il a fait un tête à queue dans un dégagement, donc Buemi a perdu facilement 10 secondes dans l'affaire, donc il est derrière Buemi, mais... Alors bien sûr, hein, tous les mecs de chez Toro Rosso, là, ils se jettent dessus, ils pardonnent à Buemi, hein. C'est pas grave, ça peut arriver un mauvais week-end, et ils en profitent pour dire, mais Albert Schwery, vous avez vu ce qu'il avait fait, là, hein, c'est pas bordé. Voilà, Alonso, abandon, on revient pas sur les circonstances de l'accident.
Non.
Vettel, abandon aussi. Est-ce qu'on revient sur les circonstances de l'accident
Non.
Moi, je noterais juste quand même qu'on retrouve un défaut de Vettel qui est de, oui. D'un peu plier quand, ouais. Quand il n'a pas les circonstances, il plie un peu, il s'énerve, il s'agace et
il y a du Kimi dans ce tome-là.
On fait l'effet marquant de la course.
Alors, déjà, on pourrait parler de la volée, la branlée que je vous ai foutu.
La preuve, chers auditeurs, la preuve, chers auditeurs, que nous au moins, nous ne votons qu'une fois.
Mais nous aussi, moi aussi.
Nous aussi, j'adore le nous aussi.
Nous aussi.
Mais nous aussi, hein.
Ouais, moi et mes amis. Voilà. Non, est-ce que tu as des preuves que j'ai pu voter plusieurs fois?
Alors,
c'est pas possible.
Justement, j'étais en train de me connecter.
Non, c'est pas possible. Tu peux alors, pas avoir.
Donc, nous avons Darth Vaderes qui a voté une fois. Nous avons Shinji qui a voté une fois. Ah. Nous avons plusieurs personnes des invités qui ont voté. Nous avons Globen Jérôme qui a voté. Et nous avons un certain Enzo qui a voté le 16 juillet à 11h44. Et un autre Enzo qui a voté le 17 juillet à 17h51.
Et j'y peux rien, le truc il me propose de voter. Moi je vote.
Donc, on va être gentil, on va te laisser parce que de toute façon ça ne change pas la branlée. Hein. Il y a 11 à 1 partout, donc il arrive. Mais quand même. Donc effectivement, ouais. on va te laisser rappeler le résultat.
Eh bien, Bourdet qui a envoyé un journaliste l'emporte avec 110 votes.
Non, quand même pas.
Contre Lewis qui ruine sa course au départ, 10 votes. Et le drive-through de Weber, 10 votes.
Donc, vos faits marquants de la course, on va proposer, on a dit c'est le dernier qui démarre, donc dernier, Shinji.
Bah, on est ex aequo.
Ouais, mais officiellement, toi, c'est drôle, parce que avec le même nombre de voix, t'as 7%, j'en ai 8.
C'est quoi ces conneries? Pardon. Mais c'est vrai en plus. Pourquoi toi, ton vote, il vaut 1% de plus que moi?
J'en sais rien du tout, je pense qu'ils ont arrondi au premier qui a voté, comme moi j'ai voté en premier, je pense qu'ils ont arrondi, mais... Donc on va dire comme t'as 7% alors, pour corriger cette injustice, tu as le droit de choisir le premier fait marquant.
J'ai le droit de choisir le premier fait marquant.
Ça alors, va être un truc genre Felipe Massa.
C'est la question que j'avais posée, c'est le fait de la course concerne-t-il la course uniquement ou le week-end?
On va faire le week-end.
Ou les conséquences.
Non, on va chantonner qualif et course.
Qualif et course. Ah bah c'est bon, j'ai gagné. Bah, donc, je choisis l'accident de Felipe Massa.
Ok, moi je vais mettre. J'aime bien taper sur Renault.
Bah oui, voilà.
L'abandon stupide. L'abandon stupide de Fernando, parce que voilà. Par négligence. La négligence de Renault, voilà. Je vais mettre la négligence de Renault.
Allez, vas-y, Enzo, démerde-toi pour gagner cette semaine.
Regardez pour trouver un truc qui va faire voter les gens. Alors là, vous êtes tous d'accord, hein, on est bien d'accord. Là, il n'y a aucun doute. Vu ce qu'on a mis, théoriquement, si Enzo gagne, c'est qu'il y a une grosse arnaque.
Le casque de Massac a quand même bien résisté. Oh.
Non, on a dit un fait marquant.
Bah, je dirais le retour des grosses écuries.
Bien, ce sera une belle victoire pour moi parce que vous avez donné des bons trucs.
Voilà. Attends, il y avait un petit peu de ça d'intéressant.
Tu sais quoi, je parie qu'il va pas gagner.
Mais même moi, je vais voter pour l'accident de Felipe. Le classement du SAV, notre podium, à nous, 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 1 point pour le dernier, enfin pour le troisième. Et puis, alors, moi je proposerai Lewis Hamilton 5 points, Raikkonen 3 points et Alonso 1 point. Ça vous fait chier de mettre 5 points à Lewis, ça.
Non.
Non.
Donc on met 5 points à Lewis.
Oui.
Ok, Lewis, ouais. Qui n'avait pas de points. Non.
Non, il n'avait pas de points.
C'est possible, hein.
Oh la vache. Oh mon dieu. Oh my god.
Bah, il passe quatrième direct.
Non,
moi,
mais ouais.
Moi, j'avais envie de mettre 3 points à Bourdet. Je trouve qu'il avait fait une belle course.
C'est vrai que ça s'est mérité.
Il s'est pas râlé. Il a pas râlé pour cette fois.
C'est vrai. Ça sale coup de ses.
Il s'est pas plaint.
C'est pas con, en fait. Je vais mettre un point à Bourdet. Donc, en deuxième, on met qui?
Kimi.
Okay. Comme ça, au moins, il passe à 4, il arrive, voilà.
Avec Massa. Voilà,
c'est vrai.
Et moi, je mettrai un point à Rosberg.
Mais pourquoi donc?
Putain, mais il a fait une belle course.
Mais pourquoi donc?
Mais quand on a parlé, ça s'est limité à c'est bien. Et résultat, un point. Ouais, ok.
Non, mais attends, tu peux pas mettre à Weber qui a une Red Bull qui est hyper performante.
C'est vrai.
Je veux dire, il mérite pas plus que ça. Ou Weber, je suis désolé.
Il a eu cette saison seulement. Il a eu 3 points.
Mais attends.
Ça y est, à Monaco, il a eu 3 points. On va quand même pas lui faire un cadeau comme ça.
Mais attends, c'est qu'un point déjà. Et puis, quand il est sorti des stands, là, il a bien défendu sa position face à Weber. Bon, il s'est fait doubler, d'accord. Mais... Et après, non. Je crois que quand, je sais pas qui est sorti des stands, il a...
Ouais, mais on peut mettre à d'autres mecs que Weber, quoi. Le choix, c'est pas Weber. Weber, quoi, s'il y en a d'autres.
Vas-y, dis, y a qui d'autre?
Moi, je sais pas. Moi, je pensais à Alonso pour sa pole ou...
Non.
Où je pensais,
Je
pensais pour rattraper ce que j'ai dit de méchant.
Attends, Alonso, on n'est même pas sûr qu'il l'ait fait, la pole, il y avait une panne des chronos.
Où je pensais pour le mal que j'ai dit de lui la dernière fois, je pensais au jeune Alguer Suari. Pour un week-end sans faute d'un débutant qui n'a pas d'expérience.
Ah ouais, pourquoi pas.
Je trouve pour le coup c'est plus impressionnant que Rosberg qui a défendu sa place sur Weber pour se faire doubler derrière.
Bon, mettons-le à broder alors.
Ah ouais, elle est à Rémer.
À Rémer.
Mais attends, stop. Les derniers débutants, ça a été Vettel qui a marqué des points à sa première course, quoi. Ça, c'était bien, quoi.
Tout le monde ne s'appelle pas Vettel.
Oui, mais Vettel, il avait fait des essais avant pour BMW, il avait fait des essais avant pour... il avait fait une course avant, il avait fait des essais, et puis Vettel, il avait roulé avant, alors que là, à Guerslari... Il a quasiment pas roulé avec la voiture. Il a quasiment aucune expérience d'une grosse voiture comme ça.
Alguer Suari, il continue son programme Formule Renault.
Et si on faisait Piquet?
Alors, moi, je propose un demi-point à Rosberg, un demi-point...
Non, on va pas commencer les demi-points.
Parce que
Glock,
Rosberg,
il a fait une belle course.
Franchement,
attends,
Rosberg...
Glock, il a fait une belle course.
Alors, 0,33 points à Glock, 0,33 à Rosberg.
Et Massa, il s'en sort bien. Attends,
et
moi
je
propose qu'on donne un point à Massa parce que grâce à lui, on va retrouver Schumi.
Ouais, pourquoi pas.
Bah, j'aurais dit plutôt, on donne un point à Massa par solidarité pour qu'il.
Ouais.
Voilà.
Ou à Barrichello parce que c'est un peu grâce à lui qu'on va retrouver Schumi.
Oh non, ça, non. Ça,
ouais, dans ce cas-là, plutôt à Massa.
Attends, Massa, il a dit qu'il aurait dû la gagner. Cette course, c'était la sienne. Donc on lui donne un point. On lui fait confiance.
Okay. Ouais.
Ouais, ok, ouais. Par solidarité et par...
voilà. Voilà,
j'arrive. Ça va passer devant... non, il était déjà devant. Donc, au classement, ça nous fait Johnson Button, toujours en tête. Vettel, toujours deuxième, 16e, puisqu'il n'y a pas de changement. Weber, qui n'a pas marqué de point aujourd'hui, donc toujours troisième avec 12 points. En quatrième position, sur Texeco avec 5 points, Timo Glock, Rubens Barrichello, Lewis Hamilton et désormais Felipe Massa. Derrière, 4 points, Alonso et Raikkonen désormais. Les deux champions du monde sont ex aequo avec Sutil. Rosberg n'a toujours que 3 points avec Fisichella. Et dans le rang des et dans le rang des détenteurs de 1 point seulement, nous avons Bourdais, Kubica et Piquet. Kubica qui donc rapporte le seul point de l'écurie BMW cette saison. Voilà. Donc le champion du monde rentre officiellement dans notre tableau et rentre en gagnant 10 places. Bravo. Voilà. Oh, l'enthousiasme. Lewis, c'est un truc de dingue.
Carrément.
C'est un truc, je me rends compte, j'ai l'impression que Lewis, il n'est pas aimé. Je comprends pas. Alors.
Tu veux dire. Non.
Pourquoi?
Non, j'allais dire, tu veux dire ici, il n'est pas aimé ou.
Un peu partout,
tout autour.
Partout, je vois, j'ai pas l'impression que les gens sont.
Bah, déjà, on n'est pas au Royaume-Uni.
Et puis, déjà, t'as plus la Milton Mania, t'as la Button Mania.
Voilà.
C'est vrai.
Heureux fan.
Bientôt, t'auras la Schumacher Romania.
Puis tu sais, il a cette espèce de froideur de McLaren, froideur d'anglais, froideur champion du monde.
Honnêtement, je vous le dis, je confesse à tous les fans qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent. Moi, c'était d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est tout sauf McLaren. C'est une équipe, je ne peux pas. C'est voilà, et le fait que, je vous jure, le fait que McLaren ait gagné avant Ferrari cette saison, ça m'a ruiné mon dimanche. Massa m'a ruiné mon samedi, ça m'a ruiné mon dimanche. Et heureusement que Michael revient, ça m'a redonné un coup de peps parce que là.
Heureusement qu'il revient pas chez McLaren, non?
Arrêtez! Oh, truc horrible! Alors, les podiums du championnat, Shinji.
Alors, au championnat pilote, devinez qui est premier.
Button.
C'est toujours Button. 70
alors,
points.
On revient tout de suite. Alors, on va avoir le droit de soumis jusqu'à la fin.
Alors, deux choses à dire. La première, c'est que à partir du prochain Grand Prix, il y a certains pilotes qui vont commencer à être éliminés de la course en championnat du monde. Donc il reste plus que 7 courses.
Bah, il y en a déjà. Et... hein.
Bah, Bourdais est déjà éliminé. Puis tous ceux qui n'ont pas marqué de points.
Bah si, parce que théoriquement, quelqu'un qui n'a pas marqué de points, il peut toujours marquer 70 points.
Ouais.
Voilà. Et donc la deuxième chose, c'est que Choumi, eh ben mathématiquement, il peut encore être champion du monde.
Oui, oui, 4 oui,
courses.
Oui, oui, oui.
Donc 60 points. Deuxième, et là, grosse surprise, on peut dire, c'est Marc Weber, avec 51 points et demi. Il a donc 18 points et demi de retard. Ce qui veut donc dire que Button sera encore leader après le Grand Prix d'Europe. Vous remarquerez que ça fait 2 semaines que je dis ça et ça n'a pas avancé. C'est la preuve quand même que l'écart se réduit. Troisième, Sébastien Vettel, 47 points. Et on peut noter quatrième, Rubens Barrichello avec 44 points.
Voilà. On notera juste aussi Lewis Hamilton qui fait un bond à la 8e place devant les deux autres champions du monde avec 19 points.
Choumi, il n'a toujours pas de points.
Eh non, pas encore. Chez Choumi, les constructeurs.
Grand Prix.
Braun Mercedes, 114 points.
Non, maintenant on va dire 114 Choumi, s'il te plaît.
Deuxième.
C'est pas de S à la fin. Hein.
Red Bull Renault, 98,5 Choumi. Ce qui fait donc un retard de 15,5 Choumi.
Voilà.
Ce qui veut donc dire que après le Grand Prix d'Europe, peut-être Red Bull pourrait passer devant.
Voilà. Et bien sûr, la Scuderia Schumacher est...
Et troisième, avec 40 points.
Choumi.
Ils sont passés devant Toyota.
40 Choumi, 40 Choumi, j'ai dit. C'est quoi ces points-là que tu nous inventes, là? Non, c'est des Choumi. Alors, les drive-thru of the weekend. Je refuse tous les drive-thru à Barrichello ou les drive-thru... voilà. Est-ce que déjà, vous avez des idées?
Bah, moi, j'ai le mien.
Ah, vas-y. Ah oui, ouais, vas-y.
Attention,
ouais, vas-y.
Attention. Mon drive-thru n'est ni contre une équipe, ni contre un pilote, ni contre une institution, ni contre un journaliste.
Contre un circuit.
Mais contre qui c'est donc?
Je mets mon drive-thru contre Shinji. Pourquoi?
Attendez.
Ouais.
Parce que je sais pourquoi il se met un drive-thru et je suis super content.
Parce que ça fait plusieurs années, hein, qu'à chaque fois qu'on parle du Grand Prix de Hongrie...
Je confirme.
Je n'arrête pas... J'ai toujours cette phrase, je dis, vous savez, cette piste dont seul Yannick aime, que seul Yannick aime.
Ouais, j'adore.
Eh bien, aujourd'hui, je fais un petit mea culpa.
Fais ton coming out.
Quand même pas.
Je suis fan du Hungaroring.
Là, on va pas aller... Mais j'avoue que j'ai peut-être été très méchant par rapport à cette piste.
Je confirme.
Qui, quand on y repense, enfin moi comme je l'ai dit au début de l'émission, j'avais plutôt bien aimé la course. C'est vrai que quand on regarde dans le passé, il y a eu des courses intéressantes, parfois particulières, tu l'as dit, c'est un peu une bulle, hein. Donc j'ai été un peu méchant contre cette piste. Et donc j'ai fait mon mea culpa. Voilà.
Merci Shinji.
Mais je vous rassure, je pense toujours que Bahreïn c'est de la merde.
Ouais, moi je suis désolé, moi j'adore cette piste. Quoi. On peut pas critiquer qu'il y ait des pistes où on peut pas dépasser, où on dépasse trop facilement, c'est des boulevards. Et voilà, je trouve ça un circuit. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que c'est des grands pilotes qui s'y imposent. C'est que des mecs qui...
Putain, c'est Lewis qui gagne.
Non mais Lewis fait partie des grands. On a Alonso qui a gagné sa première victoire, on a Button qui a gagné sa première victoire, on a Schumacher qui a gagné plein de fois. Bon, Kovalainen il a gagné parce que Lewis a abandonné, mais c'est même pas abandonné. Mais voilà, donc c'est globalement cette piste-là, c'est comme une piste où quand on s'impose, c'est qu'on est un bon du volant, quoi. C'est une piste assez technique. assez étroite. C'est vrai que c'est pas super folichon à regarder en course. J'ai même trouvé la course un peu longue.
Il y a eu 14 vainqueurs sur cette piste. Sur 14 vainqueurs, il y a 10 champions du monde.
Voilà.
Ça veut rien dire.
Ouais, mais quand même.
Quand même. Enfin,
ça veut surtout dire que quand t'as gagné une fois, t'as plus envie de gagner sur ce circuit, quoi.
Eh ben, sur les 14, il y en a...
Il y en a que 4 qui ont gagné 7... deux fois.
Non, il y en a 7 qui ont gagné une fois. C'est-à-dire que l'autre moitié, ils ont gagné plusieurs fois.
Oui, bah c'est bien ce que je dis. Il y en a 4 qui ont gagné deux fois, et tu me dis non.
Non, mais c'est ça, tu vois. Faire...
Ils ont gagné qu'une fois.
Au moins, sur ce circuit-là, quoi, il y a du changement, quoi. Voilà. J'arriverai jamais... J'ai réussi un petit peu à faire céder Shuji. Un jour, j'aurai la peau d'Enzo. Alors, Enzo, est-ce que t'en as un ou est-ce que je fais le mien avant?
Vas-y, fais le tien avant.
Et ben moi, je vais faire original. Je vais faire un drive-thru contre la FIA.
Oh, oui, c'est original.
Alors, je vais faire un drive-thru contre la FIA à cause de ce règlement de merde qui fait qu'on n'a pas pu voir Shumi dès le Grand Prix de Hongrie. Voilà, c'est un règlement de merde. Au-delà même du fait de Shumi, le fait qu'on ait un pilote de voir la Scuderia, qui est toujours un peu l'attraction sur tous les circuits, de voir la Scuderia n'aligner finalement qu'une voiture sur une course, je trouve ça un peu con. Tout ça parce qu'on n'a pas un pilote qui a fait un tour pendant le week-end. Je pense que l'IFIA ferait bien de réfléchir à un changement de règlement.
Tu penses à nos amis américains qui ont vu que 6 voitures une année?
Oui. Mais il y avait 2 Ferrari, eux ils s'en foutaient.
Ouais.
Mais donc voilà. C'est
vrai qu'à la limite, quitte à le faire partir de la dernière place.
Ouais, voilà, quitte même à faire partir de la dernière place. Mais tu fais. Il y avait Wurtz dans le paddock, on l'a vu aux essais.
Non, il y avait Badoer aussi. Il y avait Gené, pardon.
Voilà, donc tu pouvais faire piloter à un pilote et ça fait aussi partie de la promotion. À un moment donné où tu n'as plus d'essais, bah, même les pilotes, ils n'ont plus le temps de faire des essais. Et donc, par conséquent, même quand il y a un remplacement, il faut qu'il ait déjà fait des essais en Formule 1. Donc, à la limite, t'acceptes un mec qui a déjà fait des essais ou qui a déjà piloté une Formule 1, et basta, quoi.
J'ai une question con. Est-ce qu'à Valence, Shumi va avoir le quota de moteur de Massa et...
C'est intéressant, ça.
Je pense que c'est la voiture.
Complète, quoi.
Je pense que c'est la voiture qui compte.
Ouais, ce sera la voiture.
Si c'est dit au pilote, le gars, style Kubica, là, qui a pratiquement niqué tous ses moteurs, une fois qu'il les a tous niqués, ils le virent, ils prennent un autre pilote.
Non, ouais, ça doit être par la voiture.
Non, mais Kubica, il s'en fout.
Oui.
Ouais.
De toute façon, lui, voilà, sa saison est morte. Hein.
Ouais.
La carrière aussi.
Ça doit être la voiture. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante, pour le coup.
Comment ça, pour le coup?
La question des moteurs et tout ça. Non, mais tu poses toujours des questions intéressantes. Mais ce qui est exceptionnel, c'est le remplacement.
Vas-y, essaie de t'en sortir, Chidi.
Mais non, mais ce qui est exceptionnel, c'est le fait de voir un pilote qui est remplacé. En plus, il va être remplacé pas qu'un seul Grand Prix.
Je rame
même pas.
Et bientôt, je vais attaquer la falaise. ouais, mais pour les moteurs, faut
même pas. Oh là là.
Donc Enzo, ton drive-thru, un vrai, un gros, un beau.
Oui.
Alors, c'est dommage que t'aies pas entendu la dernière émission.
Pourquoi? T'avais fait le blanc.
Alors que t'as cherché ton drive-thru, j'ai mis une petite musique d'attente.
Donc,
je te conseille d'écouter la dernière émission, parce que j'ai même enregistré un bout en disant, le temps qu'Enzo trouve un drive-thru, on va vous faire passer une petite musique d'attente.
Espèce d'enfoiré.
Et donc, il y a presque 40 secondes de musique d'attente et on
comprend que
ça passe, je te jure.
Si, c'est vrai.
Ça doit être vers 1h.
Maintenant, tu écouteras,
ça doit être vers 1h15, je crois, voilà. Donc, prends pas trop de temps parce que ça pourrait me reprendre.
c'est pas bien gentil ce que tu fais là.
Ah, mais c'est l'avantage de monter, hein.
S'il était gentil, ça se saurait.
Tu vois, lui, tu lui fais rien.
Non mais Shiji, il a
ah pas... Bon ah bon, ah bon, parce que monsieur, ah je rame, c'est rien de...
Ah oui, c'est vrai. Là. Donc juste pour, comme ça je rappellerai enregistré. Et maintenant, comme le temps qu'il faut que Enzo trouve un drive. On va vous mettre une petite musique d'attente.
Non, c'est voilà. Dégueulasse.
Et on vous reprend juste après. Alors Enzo.
Ces enfoirés. Eh bien. Et je crois que j'ai pas écouté non plus celui d'Angleterre.
Et nous on veut un drag-trou.
Ouais.
Eh ben moi c'est un drive-trou contre le SAV de la F1.
Non, contre la course.
Non. Attends, il s'est mis un drive-thru contre lui-même, l'autre.
Ouais, mais c'est des relations avec la course.
Eh ben, moi aussi.
Ah, vas-y, raconte-nous.
Eh ben, parce que le SAV de la F1, il met sur son site des petits dessins, il me fait de la concurrence.
Mais ça n'a aucun rapport avec la course.
On s'en fout.
Non, mais je sens, là, nos auditeurs qui sont devant leur poste, là, qui ont arrêté la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Hein, qui ont éteint tout ce qu'ils faisaient en disant « Vite Enzo, on veut un drive-thru. Entends-les dans ta petite tête, là. Entends Jérôme, Maël et compagnie, et Kevin et tout le monde qui nous écoute. Vous qui êtes là, criez « Enzo, on veut un drive-thru !» Mais en attendant qu'Enzo retrouve son drive-thru, on va tout de suite vous remettre une petite musique d'attente. Tu me réveilles, Shinji.
Ouais.
Il est en train de se re-regarder le Grand Prix.
Oui, je réfléchis. Hein. Ah si, j'ai trouvé.
Oh, alléluia, alléluia.
Alors, mon drive-thru, c'est contre le podium. Non, qu'est-ce non, non. Je ne vais pas pour vous parler des quelques marches merdiques.
Les trophées étaient bons aussi.
Mais les coupes, elles étaient laides.
Ah ouais, mais c'était des vrais trophées.
Ah ouais, mais c'est trop laid, quoi.
Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, non, mais...
C'est trop laid.
L'espèce de grosse assiette, là, avec le décor de... Le truc que tu peux acheter, c'est un marchand de journaux dans toute bonne boutique de tourisme.
Non, mais c'est surtout son machin. Les coupes blanches, là, on aurait dit qu'elles étaient en je sais pas quoi, là.
Ça bah, on aurait dit de la faïence.
Voilà, c'était très laid.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Et puis, Hamilton avait une espèce d'énorme urne funéraire blanche, là.
Mais c'est ça, voilà.
Va falloir qu'un groupe Facebook halte au trophée de merde en F1.
Donc, pronostic pour la course de Valence.
Choumi. Voilà, je t'ai dit.
Il a dit cash direct.
J'ai dit.
Choumi.
Attends, je suis partagé, attends.
Il est partagé entre qui et qui?
Entre Choumi et Choumi. Entre Michael ouais. Et Choumi.
Entre Choumi et Baby Choumi.
Ouais. Alors Choumi est dans un bateau avec Baby Choumi. Choumi tombe à l'eau. Qui reste
bah, je vais prendre Baby Choumi.
Alors Vettel, enfin Baby voilà. Choumi.
Okay. Alors vas-y, alors, on a pris Choumi et Baby Choumi. Tu prends qui? Alors il y a.
Je vais appeler Choumi, deuxième du nom. Celui qui lui a succédé à la tête de la Scuderia.
Ah bah ouais,
Kimi Raikkonen, Choumi.
Voilà. Choumi.
Nos pronostics,
Baby Choumi.
Nos pronostics, c'est Choumi, Baby Choumi et Choumi 2. Alors, on termine presque à minuit et on va tenir des délais incroyables. Le concours top position du Grand Prix de comment ça s'appelle
d'Europe.
D'Allemagne.
Non, d'Hongrie.
Non, d'Allemagne.
Allemagne.
Ah oui,
rappelle d'abord la question. Et qui c'est qui va nous rappeler la question? C'est Shinji.
C'est Shinji. La question. Quel est le nom du journaliste de TF1 que Sébastien Bourdet a envoyé chier en direct? Donc son nom, c'est Denis Papin.
P.A.P.1.
C'est Laurent Dupin.
C'est Laurent Dupin.
Heureusement que t'as pas participé, t'aurais eu la honte.
Tu le laisses pas,
c'est le gars.
Ah ouais, ça je le laisse, alors Denis Papin, c'est terrible. Denis Papin. Attends, j'ai eu un moment de doute, mais attends, c'est bien Laurent Dupin, mec, parce qu'il y a quand même répondu Laurent Dupin et qui se serait gouré. Donc oui, c'est Laurent Dupin. Alors, trois personnes ont répondu, et elles ont répondu Laurent Dupin.
Papin, papin.
Et heureusement qu'elles n'ont pas dit papin, parce que sinon, on aurait eu bien du mal. Donc, nous avons le traditionnel Jérôme. Donc, j'écris Jérôme avec en dessous un numéro. Nous avons la traditionnelle Maëlle. Et nous avons le retour... je vais changer de numéro, ça les porte malheur. Ah non, je vais mettre celui-là. Et nous avons le retour de Kevin. Voilà. Donc, Enzo, tu as le choix entre le 34, le 27
le 1,
et le 18.
Le 1. Non.
Le choix entre le 34, le 27 et le 18.
Bah, le 27, le numéro d'Alésie, c'est Choumari.
Non. Eh ben, Maëlle va être très contente puisque c'est le numéro attribué à Maëlle. Donc, bravo Maëlle. Tu as gagné un nouveau... Alors qu'Enzo a sommeil, tu vas gagner un nouveau magnet, qui est le magnet du Grand Prix d'Allemagne. Est-ce qu'il est beau celui-là? Ah oui, il est beau, ouais. Ah, celui-là, il a de la gueule, c'est la porte de Brandebourg. Voilà, ça va encore sauver celui d'Angleterre. Donc voilà, merci à tous les trois de votre participation, et puis n'hésitez pas à participer au prochain concours Top Opposition qui vous est présenté par Enzo.
Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix de Hongrie. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin de gagner un magnifique magnet. Quel jeune pilote débutant remplacera Felipe Massa au Grand Prix d'Europe à Valence? Laissez vos réponses sur le site du SAV de la F1 www.savf1.fr.nf. A bientôt pour le prochain Grand Prix d'Europe à Valence dans 3 semaines.
Donc on vous souhaite à tous de bonnes vacances pendant ce mois qui va nous séparer du prochain Grand Prix. Ouais. On vous invite à continuer de nous suivre sur le SAV de la F1, à continuer de suivre le site enzof1.com.
Qui revit.
Et puis à vivre avec impatience ce prochain Grand Prix qui s'annonce tout bonnement très enthousiasmant, surtout pour nous qui sommes fans de Michael Schumacher. Donc voilà, tout et au revoir.
Salut.
Pardon, Schumi.